Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc on va essayer de réfléchir, si vous voulez, sur ce thème de comment est-ce que quelqu'un il doit réussir à gérer ses doutes et pour l'inscrire dans un contexte qui soit plus général, il faut arriver à comprendre en soi le principe. C'est quand on parle du doute, le doute en hébreu c'est le safek. Le safek, il s'inscrit à l'intérieur d'une personne à partir du moment où il y a un espace pour que ce doute se crée. Parce que chaque élément dans la nature, il a un pouvoir de pénétration qui dépend de la place qu'on lui donne. On a expliqué déjà plusieurs fois que ce qui rentre à l'intérieur de moi, c'est d'abord parce que c'est un rapport avec moi. Et c'est une loi physique. Oui. Aussi, l'eau, elle rentre à l'intérieur du sable et l'eau, elle ne rentre pas à l'intérieur du verre. L'autorité des parents, elle existe parce que les parents sont définis comme des parents, parce que les enfants sont définis comme des enfants. C'est-à-dire que les choses, elles sont interactives les unes avec les autres. Maintenant, le monde, il est fait de choses différentes qui se confrontent les unes aux autres. Alors, ça va, quand on a défini un, on définit l'autre. Alors maintenant, quand on définit le doute, quand on définit le safek, alors automatiquement, on est obligé de définir le contraire, l'affirmation. Maintenant, pourquoi est-ce que quelqu'un, il va être dans l'affirmation et dans la force et dans la connaissance? Et pourquoi quelqu'un, il va être dans l'ignorance, il va être dans le doute? Pourquoi? Comment ça fonctionne? Alors, la Gemara dans Brachot, elle dit « Quel déot Hachem ?» Il y a un pasouk dans la Torah. Quel, Dehot, Hachem. Quel, c'est un nom d'Hachem. Dehot, la connaissance, oui, on va voir. Hachem. La Gemara, elle dit que Dola, Deha, Shenitna, Ben, Shteotiot. Elle est grande, la Deha, qui a été placée entre deux noms d'Hachem. Pourquoi est-ce que la Deha, on va voir, c'est un mot qui est difficile à traduire. Deha, c'est Da'at. C'est la Da'at, c'est savoir. Et Da'at, c'est aussi la conscience. Et Da'at, c'est aussi la volonté. Quand on dit en hébreu, Eze Da'at, Ataose, Eze. Dans quel esprit, dans quel le da'at c'est la connaissance, mais c'est aussi le kivuna da'at, c'est-à-dire l'esprit. Dans quel esprit tu fais ça? Dans quel intérêt tu fais ça? Dans quel but tu fais ça? Ils disent, tu vois que le mot da'at, il a plusieurs traductions. Il veut dire connaissance, il veut dire conscience, il veut dire volonté. Alors comment c'est possible que les trois, ils traduisent le même mot, que ce soit la traduction du même mot? Alors pour comprendre ça, il faut comprendre qu'en vérité, les trois, ils sont liés. Parce que quand quelqu'un fait les choses selon sa connaissance, en fonction de sa conscience et selon sa volonté, alors on dit qu'il est doué de maturité. C'est là qu'il a la maturité. C'est quoi la maturité? C'est qu'il faut les trois en même temps. Il faut quelqu'un, il ait travaillé sur sa connaissance. C'est pas simplement de savoir. Les gens croient que de savoir c'est extraordinaire. C'est rien de savoir. Tu prends un magnétophone, tu enregistres. Alors il sait, la cassette elle sait. Alors maintenant tu t'assois pendant 5 ans à la fac, tu apprends. Tu t'assois pendant 5 ans à la yeshiva, tu connais. Le problème c'est pas de savoir. Le problème, c'est de vivre en fonction de sa connaissance. C'est-à-dire que toi, maintenant, ton da'at, il a une valeur parce qu'on voit chez toi que les choses que tu as apprises, elles sont inscrites à l'intérieur de toi. Elles font partie maintenant de ton essence. Maintenant, si quelqu'un, il acquiert, il vit avec cette connaissance, mais en toute conscience, c'est-à-dire au moment où il a appris et au moment où il vit, il est conscient de ce qu'il sait, au moment même. Et ça va selon sa volonté. C'est-à-dire que maintenant, au moment, dans un acte, il y a trois dimensions. Il y a une conscience, une connaissance et un geste. Au moment même où tu vis la chose, c'est maintenant qu'il faut avoir la connaissance, c'est maintenant qu'il faut avoir la conscience. Malheureusement, il y a des gens, c'est une grave maladie, ça s'appelle si j'avais su. Oui, après l'événement, ils disent, ah, dommage. Dommage si j'avais su, c'est dommage. Oui. L'autre, il dit, ah, j'ai pas réfléchi. Ou alors l'autre, il dit, non, j'avais pas la volonté, il manquait la volonté. Maintenant, je sais que c'est pas bien, et je sais que c'est bien, et je sais qu'il faut le faire. J'ai appris ça et je comprends et même j'ai senti à ce moment-là. Mais j'ai pas eu la motivation. Maintenant, le problème, c'est ça. C'est qu'il faut les trois en même temps. Il faut la motivation, il faut la connaissance et il faut la conscience. S'il manque un des trois, alors l'acte, il est vide. Parce que la personne, elle est pas là. Si on comprend ça, quand on parle du da'at, on parle de quelqu'un qui a réussi à remplir les trois conditions. C'est ce qu'on appelle en français la maturité. C'est ça, la maturité. Non, l'immaturité, elle peut être liée à une ignorance. L'immaturité, elle peut être liée à un manque d'affirmation, c'est-à-dire ta capacité de pénétrer la réalité, elle est faible. Il y a des gens comme ça, on dit en français, ils n'ont pas de personnalité. Ça veut dire quoi qu'il n'y a pas de personnalité? On a expliqué déjà plusieurs fois que la personnalité, c'est l'empreinte de la personne dans la réalité. Pourquoi ta personne à toi, elle ne pénètre pas la réalité? En français, il a du charisme, il a de la présence, il a de la prestance. Pourquoi il y a des gens que quand on les voit arriver, ils prennent une place, et il y en a, ils ne prennent pas de place, c'est tout juste si on ne marche pas dessus. Tu dis, oh, mais comment ça se fait? Tu manques de respect. Mais ça veut dire quoi le respect? Le respect, c'est par rapport à la place que tu as. Mais la place que tu as, c'est la place que tu prends. Mais si toi-même, hein, il m'a téléphoné, il m'a dit, oui, Ramachet Ritz, il faut que vous parlez à ma femme, elle ne me respecte pas, elle me parle mal, elle me jette, elle me truc. Mais moi, lui-même, quand il me parlait, il me faisait pitié. Lui-même, il me parlait, il me faisait pitié, il me disait, ouais, presque il allait pleurer, oui, c'est pas normal. Je lui ai dit, écoute, papa, je veux bien parler à ta femme, mais si tu ne changes pas, ça va revenir. Mais c'est normal, toi-même, tu te mets à quatre pattes, après tu dis, comment il me met un coup de pied derrière. Mais c'est impossible. Ça veut dire qu'il y a une manière d'être, que toi, tu as ta place, ouais, c'est pareil. Maintenant, comment les enfants, ils se permettent des choses? Parce qu'il n'y a personne en face d'eux. Ça s'appelle l'eau et le sable. Oui, comment le client, il t'embrouille? Parce que tu n'es pas clair. Et comment les employés, ils font ce qu'ils veulent? Parce qu'ils n'ont pas de patron. Donc, tu vois bien qu'en fin de compte, ce qui a défini le patron, c'est l'employé. Et ce qui a défini l'employé, c'est le patron. Il dit, ça, c'est quoi? C'est que le da'at, on a dit, cette maturité, cette présence, cette prestance, c'est ça qui va faire de toi un homme mature, une personne mature. Il dit, cette dimension-là, elle est obligatoirement les trois en même temps. Qui est une conscience très forte au moment où tu vis les choses. Tu sais ce que tu es en train de faire. Que tu aies la volonté de le faire. C'est pas que tu dis, oh ben j'aurais bien voulu, ça aurait été bien, ça serait bien si ça s'était fait. Ah non, ça marche pas. Vous voyez, le train il avance parce qu'il y a une locomotive. La locomotive, c'est la locomotive, c'est le fou qui motive. Ouais. Il faut qu'il y ait une motivation. Sinon, il n'avancera jamais. Il sait exactement pareil. Il dit, toi, il y a la motivation qui est là, il y a la conscience qui est là, il y a la connaissance qui est là. Quand les trois sont réunis en même temps, encore une fois. Parce que les gens, ils croient, celui-là, c'est un grand intellectuel. Tu dis, bon, il n'a pas de motivation, mais quand même, c'est un intellectuel. Ça ne sert à rien. Un dictionnaire, tu parles avec un dictionnaire. Hein? Tu vas demander un livre de science, tu dis, monsieur, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un bouquin. L'autre, il a une très grande conscience, mais il est complètement ignorant. Aucun intérêt. L'autre, il a une grande motivation, mais il est idiot comme un tracteur. Ça ne sert à rien. Il nous faut les trois en même temps et les trois dans la même personne et au même moment. Maintenant. Il dit ça s'appelle quoi? Ça s'appelle Da'a. C'est ça la Da'a. Pour ça qu'on dit un homme, il est Ben Da'at. Un Ben Da'at. L'autre jour, il y a quelqu'un qui est venu, il m'a dit, ah, mais Jeffrey, j'ai très honte de vous dire, voilà, j'ai 35 ans, j'ai pas fait la Brit Mila, j'ai pas fait la Bar Mitzvah. Je dis, c'est pas grave. Je dis, tes parents ne l'ont pas fait, toi-même tu n'as pas grandi dans un milieu religieux. La Brit Mila, on va trouver une solution, on va trouver un rabbin chirurgien, tu rentres en clinique, il te le fait, il n'y a pas de problème. Je dis, la Bar Mitzvah, c'est pas grave. Sache que la moyenne des gens, à 35 ans, ils n'ont pas fait leur Bar Mitzvah. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, mais enfin, tout le monde fait sa Bar Mitzvah à 13 ans. Mais non! Sachez que dans une Bar Mitzvah, il y a 250 invités, il y a toute la famille, il y a les parents. Le seul qui ne sait pas que c'est une Bar Mitzvah, c'est le Bar Mitzvah. Le seul. Il est comme ça, il est en train d'attendre des cadeaux, on lui fait des discours. Le seul qui écoute pas, c'est lui. Même le père, quand il parle pour la Bar Mitzvah, il dit, tu sais mon fils. En vérité, c'est maintenant que lui, le père, il comprend l'importance de la Bar Mitzvah. Mais le gosse, il comprend pas. Ça veut dire que la moyenne des gens, à 35 ans, un jour, ils mettent les téfilines et ils disent, oh, j'ai compris qu'est-ce qu'il veut le bon Dieu. Ça veut dire maintenant que tu as fait ta Bar Mitzvah, à 35 ans, maintenant. Donc je lui dis, tu sais, à 35 ans, tu n'as pas tellement de retard pour la Bar Mitzvah. C'est pas grave. Et vous savez la Bar Mitzvah, comment ça se passe? Quelqu'un, il a 80 ans. J'ai lu dans le journal il n'y a pas longtemps, un monsieur 88 ans. Parce que lui, quand il avait 13 ans, il était à Auschwitz. Il n'a pas fait la Bar Mitzvah. Après, il a travaillé, il a truqué. Il est arrivé à 88 ans, il a dit, voilà, j'ai pas fait la Bar Mitzvah. Ils ont fait sa Bar Mitzvah. Il monte à la Torah, il s'est mis à pleurer, il a mis les téfilines pour la première fois de sa vie. Ils ont fait la Bar Mitzvah. Il n'y a pas d'âge pour la Bar Mitzvah. Ouais. Pourquoi? Parce que Bar Mitzvah, c'est une conscience. Alors, la conscience, là, où tu vas la voir. Il y a des gens, 10 ans après la Chaupa, ils se sont mariés. 10 ans après, ils ont compris qu'ils sont mariés. Ils ont arrêté de se conduire comme des célibataires. 10 ans après, pourtant ils ont fait la roupa, ils ont fait les enfants. Après, il a dit, mais en fait, je suis pas marié. J'ai pas le souci de ma femme, j'ai pas le souci de mon mari. Donc pour être marié, ça leur a pris 10 ans. Parce que le da'at, la maturité, la conscience, c'est pas une chose qui vient comme ça. C'est un travail. Il dit, maintenant, il s'est séparé. Quel des hôtes Hachem? Elle dit, la Gemara, on a placé la da'a entre deux noms d'Hachem. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de tellement important? Alors, elle dit la Gemara là-bas que Miché Jbodéa, qui ilou bana betamikdash biyamav. Celui qui a la Déa, ouais, c'est comme s'il a construit le betamikdash, le temple de son vivant. Mais quel rapport entre le temple et la Déa? C'est quoi? Alors, on dit que celui qui a vu le betamikdash de son vivant, il ne pouvait pas avoir de doute. Vous savez, nous, on a des questionnements sur l'existence de la vie, de la Torah, du bon Dieu, des miracles, comment ça s'est passé, est-ce que la mer s'est ouverte, est-ce que Moïse a fait, est-ce que... On a des questions. Mais celui qui voyait le Beth Amikdash, il ne peut pas avoir de questions. Parce que le Beth Amikdash lui-même, c'est des miracles perpétuels. Maintenant, essayez de comprendre. Si quelqu'un, il est devant le mont Sinaï, ouais, Il voit les flammes, il voit le tonnerre, il entend Hachem qui parle. Il va avoir un doute sur le don de la Torah. Il n'aura pas de doute. Si quelqu'un, maintenant, Moshe Rabbeinu, il le prend par la main, il le monte au ciel avec lui, il monte, il lui montre les anges, il lui montre le fleuve de feu qui descend du Guéhinam, il lui montre tous les miracles. Il va avoir un doute, il n'aura pas de doute. Maintenant, est-ce que quelqu'un, avec sa tête, avec son cerveau, il peut atteindre le même niveau d'affirmation? La Gemara dit oui. Mishi yeshbo de'a, celui qui a la de'a, oui, c'est celui qui a ce niveau de maturité dont elle parle, la Torah, il peut atteindre le même niveau d'affirmation que celui qui aura vu de ses yeux. Comment ça fonctionne? Alors, le problème, il est comme ça. C'est marqué dans le Sforno que si les Bnei Israël n'avaient pas fait la faute du Chet HaEgel, la faute du Vaudor, alors ils n'auraient pas eu besoin de construire le Mishkan. Vous vous rappelez que quand les Bnei Israël étaient dans le désert, toute la paracha de Trouma, de Tetzavé, tout ça, c'est quoi? C'est le Mishkan. Le Mishkan, c'était un espèce de temple qui se démontait, qui se remontait, qu'on utilisait dans le désert. D'accord? Maintenant, il dit le Sforno, si les Bnei Israël n'avaient pas fait la faute du Vaudor, ils n'avaient pas fait, ils n'auraient pas eu besoin d'un Mishkan dans le désert. Pourquoi? Alors, il faut prendre un petit peu l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Bnei Israël sont sortis d'Égypte. En vérité, combien de temps ils sont restés dans le désert? 40 ans. Mais combien de temps ils auraient dû rester normalement? 3 jours. Ils avaient 3 jours de voyage. Donc, comment c'était l'histoire? C'est facile. Ils sortaient d'Égypte, ils rentraient dans le désert, Dieu donnait la Torah, ils traversaient le désert 3 jours, ils rentraient en Israël, ils construisaient le temple. C'est fini. Malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Juste avant le don de la Torah, il y a eu la faute du Vaudor. La faute du Vaudor, qu'est-ce qu'elle a entraîné après 40 ans dans le désert? 40 ans dans le désert, ils ne peuvent pas rester comme ça dans le désert. Il leur faut un Mishkan. Il leur faut un Mishkan. Le manger, Dieu s'en occupe. Mais il leur faut un temple. C'est quoi le temple? C'est le Mishkan. Voilà, il y a quelle différence entre le Mikdash et le Mishkan? Ouais, c'est quoi un Mishkan? Un Mishkan, ça vient de Shochen. Shochen, c'est Shekhina. Un Mikdash, ça vient de Kodesh. Kodesh, c'est un sanctuaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Kodesh? Kodesh, ça veut dire sacré. Ça veut dire quoi, sacré? Ça veut dire quoi, sacré? Le mot sacré veut dire quoi? En hébreu, Kadosh. Kadosh, ça veut dire Mouvdal Minachomer. Ça veut dire séparé de la matière. Quand quelque chose est Kadosh, vous voyez, ça prend une dimension supérieure. Par exemple, un homme, il se marie. Il est Mekadesh Ishto. Il se marie avec la femme. Qu'est-ce qu'en réalité, qu'est-ce qu'il fait? Il a consacré cette femme. Maintenant, cette femme, elle est consacrée à lui. Et lui, il est consacré à cette femme. Maintenant, c'est la même femme qu'avant, mais maintenant, elle est mariée. Ça va? Ça va. Alors, on est à l'époque du temple. Maintenant, vous voulez prendre ce mouton, vous voulez l'offrir au temple. Mais c'est un mouton. C'est un mouton. C'est un mouton. Il n'y a rien de... C'est juste un mouton. Mais si tu dis Arezé Ekdesh, Arezé Ola, tu le rends un korban Ola, tu le rends un sacrifice de Ola, tu mets dessus la kedusha de Ola, la sainteté de Ola, c'est fini maintenant, il devient un korban. Tu dis, mais c'est un mouton. Non. Il a pris un caractère spécial. Il y a des lois, tu ne peux pas l'utiliser pour n'importe quoi, tu peux faire n'importe quoi. Il est sacré. Mais ça veut dire quoi sacré? Maintenant, pourquoi? C'est-à-dire maintenant il est devenu sacré. Mais c'est un veau. Qu'est-ce qu'il a de sacré? Ah, c'est pas une synagogue. Voilà, c'est une synagogue ici. Tu rentres dans une synagogue, tu dis, attention, c'est une synagogue. Oh, c'est une synagogue. Bon, il y a le Aaron HaKodesh, il y a la Teva, il y a... D'accord. Tu sais quoi? On enlève tout ça, on met des buts de basket, on fait un match de basket. Si je peux pas, c'est une synagogue. Mais qu'est-ce que c'est une synagogue? C'est quoi une synagogue? C'est une salle de basket sans les buts de basket. Mais il est fou celui-là. C'est une synagogue. En vérité, qu'est-ce qui a fait que cet endroit il est sacré maintenant? Qu'est-ce qui fait que cette femme maintenant elle est consacrée? Qu'est-ce qui fait maintenant que ce veau là il est sacré? Qu'est-ce qui a fait? Il dit, c'est très simple, c'est ton esprit. Toi maintenant tu as décidé. Comme toi. Tu vois, cette femme elle est mariée. Je dis, bon, oh, je t'en prie. Arrête de la regarder comme ça, elle est mariée. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Tu dis, elle est mariée. Non. Ça dépend si tu l'aimes, si tu l'aimes pas. Oh, tu sais, tout ça c'est dans la tête. Mais t'es fou toi. C'est une femme, elle est mariée. C'est du feu, ne t'approche pas. C'est du feu. T'approche pas. Elle est mariée. Ça, c'est un korban. Il est kadosh. Il y a en vérité la capacité, elle vient d'être capable de consacrer les choses. Or, maintenant, exactement pareil dans la vie. Vous savez pourquoi les trois quarts des gens, ils ratent leur vie? Pourquoi? C'est pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas se consacrer. Ils ne savent pas. Maintenant, tu es avec ton fils, occupe-toi de ton fils et c'est tout. Ah, c'est pas évident, j'ai le téléphone, j'ai la télé, j'ai le truc. C'est ça ton problème. Tu n'es pas avec ton fils. Mais ton fils aussi n'est pas avec toi. Alors maintenant, fais tes études. Ah oui, mais j'ai peur pour le business. Alors tu fais pas les études. Après, tu dis, occupe-toi de ton mariage. Oh, mais vous savez, je cours beaucoup. Tu vas divorcer. C'est-à-dire qu'en vérité, le problème, c'est que nous, on ne sait pas se consacrer. Si quelqu'un, il est consacré, c'est-à-dire il prend chaque étape au niveau temporel et au niveau géographique, et il l'a fait à 100%, il est mekadesh, il sanctifie, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que des fois, tu trouves que des gens simples, ils réussissent mieux que des gens compliqués. Parce que les gens compliqués, ils ont plus de mal à se consacrer. Parce qu'ils ont la tête là-bas, la tête là-bas, la tête là-bas, la tête là-bas, la tête là-bas. Dis, mais la dimension du sacré, c'est quoi? C'est une capacité de séparer, de dire c'est ça maintenant et pas autre chose. Dans le temps, dans l'espace, dans les personnes, dans le don de soi, dans la matière, dans tout. Est-ce que tu es capable de consacrer les choses? Mais le contraire du sacré, c'est quoi? C'est le profane. Le profane, ça veut dire qu'il n'a pas de couleur. Oui? Alors toi, t'es marié ou t'es pas marié? Bon, tu sais. Oh, attention, t'es un type dangereux, toi. L'argent, c'est l'argent. L'honnêteté, c'est à toi ou c'est pas à toi? Bon, je t'en prie, tu sais, dans les affaires, t'es un voleur. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? Ça veut dire que quand quelque chose n'est pas sacré, automatiquement, c'est profane. Tu peux pas dire, bon, c'est ni sacré ni profane. C'est le troisième type. Y a pas, je n'existe pas. C'est ou sacré ou profane, ou pur ou impur, ou vrai ou faux. Il dit cette dimension-là, la capacité de faire la séparation entre le pur et l'impur, le profane et le kadosh, comment on appelle en hébreu? La Abdallah, d'être mavdil. Et ça vient de quoi? De la Dera. Maintenant, celui qui n'arrive pas à faire les distinctions, ouais, on parle pas d'un imbécile maintenant, on parle de quelqu'un qui ne se donne pas les moyens parce que ça l'intéresse pas, la clarté. Il veut pas, il a peur. Ouais. Lui, il aime bien le flou, parce que dans le flou, on fait ce qu'on veut dans le flou. Tu dis c'est Shabbat, il dit bon c'est Shabbat, c'est pas la nuit, c'est la nuit, c'est pas la nuit. Non, faut être clair. Tu dis bon alors cet enfant, il est mamzer ou il est pas mamzer? Bon, il est mamzer, mais bon, il est pas mamzer. Bon, elle l'a pas fait dans une mauvaise intention. Il est mamzer ou... À quoi ça sert la halakha? La halakha, c'est la clarté. Toi, t'es un expert comptable, tu dois être clair. Ouais. Eh ben toi, si tu vas avec une femme, tu dois être clair. Elle est mariée, sache que le bébé qui est né, il est mamzer. Tu dis non, je l'ai pas fait dans une mauvaise intention, mais si j'en prends un pistolet et je tire une balle dans la tête de quelqu'un, j'ai vu la cervelle qui a sauté, mais je ne l'ai pas fait dans une mauvaise intention. Il est mort ou non? Non, il faut être clair. Est-ce qu'il est mort ou non? Il n'y a pas de différence entre cette balle qui traverse la tête et le mamzer qui est né. Il n'y a pas de différence. C'est autant une réalité. Tu vas dire, non, ce n'est pas une réalité parce que je comprends au fond moi. Mais on s'en fiche de toi, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris encore. Il faut être clair. Donc quand toi, tu t'investis maintenant... Tu récupères des fruits parce que tu as consacré. Quand toi, tu n'investis pas, tu récupères pas. Et c'est tout. C'est pas la peine de chercher, c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle. Tu n'étais pas là, de quoi tu parles? Qu'est-ce qu'on dit en français? Les absents ont toujours tort. Alors si toi, tu es absent de ta vie, ne demande pas qui est-ce qui a tort. Parce que toi, tu es absent. Il dit, maintenant, cette capacité d'être présent, c'est la conscience. La conscience, c'est quoi? C'est la DA. Maintenant, on a dit, quand est-ce qu'il est venu? Quand est-ce qu'on a eu besoin du Mishkan? Et le Mishkan, c'est quoi? On a dit, ça vient de Shochen. C'est quoi? Mais c'est quoi la Shekhina? La Shekhina, c'est un degré de présence divine qui est supérieur. Maintenant, c'est quoi le Kodesh? C'est un endroit de présence divine qui est supérieur. Mais alors, qu'est-ce qui a fait que ici c'est le Beth Amikdash? Parce que Dieu, il a donné une mitzvah de faire un Beth Amikdash et nous, on a accepté. Alors, voyez cette correspondance entre la mitzvah de Dieu et l'acceptation de l'homme. C'est ça qui a créé la réalité des choses. Comme si toi et moi, on se met d'accord sur quelque chose. Toi et moi, on va faire un business tous les deux. Tu es d'accord, je suis d'accord. On met 10 000, tu mets 10 000, c'est bon, on le fait, on le fait. Mais si tu me dis, bon, mais attends, pour les 10 000... Attends, là, je crois que tu n'es pas là, là. Comprenez ou non? Il faut qu'on soit 100%. Hachem, il est 100%. Toi, tu es 100%. Ce que tu as écrit ici s'appelle la Shekhina. Ça s'appelle la communion des volontés communes. C'est ça, la Shekhina. C'est la communion des volontés communes. Il dit maintenant, quand quelqu'un, il dit le Sforno, si les Bnei Israël n'avaient pas fait le Chet à Hegel, il n'y aurait pas eu le Mishkan, il n'y aurait pas eu besoin du Mishkan. On dit, quel rapport entre le Chet à Hegel, la faute du veau d'or, et le Mishkan? Mais comment ça s'est, vous connaissez l'histoire, comment ça s'est passé la faute du veau d'or? Comment ça s'est passé? Les Bnei Israël, ils attendaient Moshe Rabbeinu, d'accord? Moshe Rabbeinu, d'après leur calcul à eux, il est venu en retard. Quand il est venu en retard, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont perdu pied. Ils ont eu peur. Comme ils ont eu peur, ils ont imaginé des choses. Rachid, là-bas sur place, il explique. Il dit que les Bnei Israël, ils ont cru que Moshe Rabbeinu, il est mort. C'est le Satan, comme ça, c'est marqué. Le Satan, il leur a dit, Moshe Rabbeinu, il est mort. Le Satan, il leur a dit, il leur a montré une image du tombeau de Moshe Rabbeinu. Ils sont affolés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit à Aaron, ils lui ont dit, fais-nous un dieu. Fais-nous un dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le veau d'or. Maintenant, il faut comprendre une chose. Moshe Rabbeinu, oui, d'après eux, il est arrivé en retard. D'après eux, il est arrivé en retard. Maintenant, à un niveau moindre, combien de fois dans la vie, nous, on s'énerve pour rien? Par exemple, Toi et ta femme, il y a un malentendu, d'accord? Toi, tu lui dis rendez-vous à 10. Elle, elle a compris 10 heures. En vérité, toi, tu voulais dire 8h10. Donc toi, ça fait depuis 8 heures que tu es dehors, tu attends. Elle, elle arrive à 10 heures pile. Saham, leha, comme ça. Et toi, tu vas éclater de nerfs. Tu dis, elle vient, je la tue. Mais en vérité, elle, elle est venue à l'heure. Elle, elle est venue à l'heure et toi, tu es venu à l'heure. Toi, tu es venu à l'heure que tu as compris 8h10. Enfin, c'est ce que tu as dit. Elle, elle est venue à l'heure qu'elle a compris 10h. Tu vois, ce malentendu, il peut faire un divorce. Ça va dégénérer, mais il peut faire un divorce. Simplement pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ta tête, un doute. Il dit, comment il est venu la, le veau d'or? C'est quoi le veau d'or? Le veau d'or, c'est la place du Satan. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait le Satan? Il a fait que les gens, ils ont commencé à avoir peur. Ils ont eu peur. Ils ont dit, Moshe Rabbeinu ne va plus revenir. Moshe Rabbeinu, il est mort. Moshe Rabbeinu. Mais essayez de comprendre. Les béné Israël, ils étaient en Égypte. Ils étaient tranquilles. Ils étaient esclaves tranquilles. Ils avaient un statut d'esclave. Tranquillement, ils se levaient le matin. On les fouettait l'après-midi. Ils étaient tranquilles. Il y a un monsieur, il est venu. Il leur a dit, allez, venez, on va sortir. On va se libérer. On va partir. C'est pas évident. Tu as ta femme, tes enfants. Tu as ton bourreau. Tu as tout ce qu'il te faut. Tu as tes barrières. Tu as tes miradors. Tu as tes barbelés. Tu t'es habitué à ton esclavage. Ah, il vient, il te fait rêver de liberté. Tu dis, oh là 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 là, on est mis en Égypte, qu'est-ce que tu veux chez nous? Bon, il arrive à te convaincre. Il te prend, il te sort d'Égypte. Où il t'emmène? Dans le désert. C'est pas évident. Tu pars dans le désert. Imagine, il te dit, tu sais, cette année, on va organiser un Pessah dans le désert. Allez, on part toute la communauté de Graki, on part tous là-bas. C'est pas cher, 100 euros par personne. C'est pas cher. Tu dis, c'est une affaire. On part tous, 500 personnes, on arrive dans le désert. On arrive là-bas, l'organisateur il est là, on est en plein désert, il est vraiment, il a fait un truc, on ne sait pas où est l'hôtel, mais ça doit être un truc de folie, hein, mais c'est pas cher, 100 euros, c'est pas cher, c'est de folie, tout ça. On est tous là, donc il y a 500 familles qui sont venues, on est tous là comme ça en train d'attendre. Alors le CDR, c'est, il va fermer bientôt, comment ça se passe? Les chambres, la salle de bain, ou alors, il n'y a rien. Et l'organisateur il dit, écoutez, je reviens dans 5 minutes. Il va derrière une montagne, on ne le voit plus. On attend, où est l'organisateur? Je dis, mais c'est pas possible. Alors ta femme, elle te dit, tu as vu, espèce de remarque, je t'avais dit. 100 euros pour toute la famille. Et toi, tu dis, moi, je croyais que c'était une famille, je croyais que c'était une affaire. Les enfants, ils te disent, papa, j'ai envie de manger. L'autre, il a dit, j'ai faim. Papa, donne-moi du pain, mon fils, c'est Pessah. Où sont les matzot? Où il est l'hôtel? Tu commences à avoir peur. Exactement pareil. Je comprends pas, Moshe Rabbeinu, c'est lui qui les a fait sortir. Au moment où ils ont besoin de lui, il est plus là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un veau d'or. C'est pour ça que le Ramban là-bas et tous les commentaires, le Rabbi Nouhaye et tout ça, ils disent qu'ils n'ont pas voulu faire Avodah Zarah. Ils ont voulu un manhig, un dirigeant, parce qu'ils étaient perdus. Parce qu'ils étaient perdus. Un homme, qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'on le dirige. Il veut qu'on lui dise qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Il a besoin. Maintenant, eux, ils étaient jetés dans le désert sans rien. Ils ont voulu un dirigeant. Le dirigeant, il n'est pas là. Maintenant que le dirigeant, il n'est pas là, ils ont eu peur. Maintenant qu'ils ont eu peur, il est rentré à l'intérieur d'eux la folie. Qu'est-ce qui leur a amené la folie? Le veau d'or. Le veau d'or, qu'est-ce qu'il leur a amené? Attends d'abord, l'orgie, ils ont fait l'orgie. Ouais, ils ont commencé d'abord à boire, après ils ont commencé à faire des bêtises avec les femmes. Je comprends pas, au début je comprends pas, tu voulais un dirigeant, après tu voulais un peu faire Avodah Zarah, après tu as fait une grosse bouffe, et après regarde comment tu t'es conduit comme un animal. Au départ, l'idée, elle est toujours bonne, elle est positive. Tu dis, moi c'est juste pour me cultiver, moi c'est juste pour savoir, moi j'ai juste besoin, et après tu vois comment ça dérive les choses, où elles t'amènent. Pourquoi? Parce que tu n'es pas clair. Combien de fois les gens ils font des bêtises avec des bonnes intentions? C'était juste amical. C'est comme ça, c'était juste une discussion. Comment une discussion? T'es marié, tu parles avec une femme. Quelle discussion? Tu commences une discussion. Une discussion. Après, t'es sur le lit. Pourquoi? Mais au départ, c'était un veau d'or. Et c'est vrai, il était en or. Mais tu aurais dû te méfier parce qu'il avait une tête de veau. Et souvent, c'est comme ça dans la vie. Mais alors, quand est-ce qu'Hachem il a envoyé le veau d'or? Juste avant le matin de Torah. Oui? Parce qu'ils devaient recevoir la Torah. Vous suivez ou non? Ils devaient recevoir la Torah. Et juste avant, ils ont eu le veau d'or. L'épreuve du veau d'or, elle est arrivée juste avant le matin de Torah. Alors, je vous donne une clé. Écoutez bien ce que je vous dis. À chaque fois qu'il y a quelque chose de grand qui va nous arriver dans la vie, juste avant, il y a un veau d'or qui vient. Juste avant. Ouais? Moi, j'ai eu le cas 1 million de fois. Une fille, elle vient chez moi, elle me dit, Rav Ben Chetrit, voilà, ça fait 1 an que je vais à vos cours. Une jeune fille de 19 ans, elle dit, l'année prochaine, je vais aller dans un séminaire. Je vais faire 1 an de séminaire pour jeune fille, je vais devenir religieuse, sérieuse, je vais épouser un kollelman. Je lui dis, attention, il y a un garçon qui va arriver. Elle me dit, quoi? Je dis, il va arriver un veau d'or, il va venir. Ça tarde pas. Deux semaines après, elle vient et me dit, ah voilà, maintenant j'ai une question par rapport au séminaire parce que j'ai rencontré un garçon. Il m'a dit qu'il pourra pas attendre un an, mais c'est un garçon bien. Moi, il n'est pas hyper religieux, mais c'est pas grave, je vais le ramener à la Torah, mais il me plaît. Je dis, mais là. Vous, vous avez choisi le don de la Torah. Il est venu, Wahd le Vaudor. C'est pareil. Toi, tu rencontres une femme. Bon, elle n'est pas tellement religieuse, mais si c'est pas grave, je vais m'arranger avec elle. Fais attention, parce que peut-être que Dieu t'a préparé un matin de Torah, et toi, tu es en train d'avaler un Vaudor. Tu veux faire un business. Voilà, il y a un business propre, mais il faut attendre un an. Tu dis, non, c'est pas grave, là, j'ai une magouille qui se propose. Pourquoi tu veux faire un Vaudor alors que tu peux avoir un matin de Torah? Maintenant, tu vas me dire, oui, mais tu vois bien que Dieu me l'a présenté. Mais il y a toujours un Vaudor qui vient avant le matin de Torah, toujours. Toujours. Une fois, il est venu chez moi. Il m'a dit, Rav Ben Chetrit, vous êtes connu, tout ça. Je vous propose quelque chose. On fait un journal, une histoire vraie. Il m'a dit, on fait un journal, et c'est un support de publicité. Et vous allez, on va écrire un ou deux articles, et on va avoir de l'argent. Et pour votre association, on va avoir 2 millions d'euros. Ah non, 2 millions d'euros. Il m'a dit, vous faites des mitzvot avec, vous pouvez créer une yeshiva. Je l'ai regardé comme ça, je lui ai dit, t'as pas une tête, t'as pas une tranche à amener 2 millions d'euros pour la Torah, toi. Il m'a dit, quoi, comment vous dites ça? Je dis, je comprends pas. Tu vas faire un journal, un support, donc c'est de la publicité. Tu vas appeler des mairies, des conseils régionaux, tu vas leur dire que tu es le journal de la communauté. Aux juifs, tu vas leur dire, ah ben, j'ai dit, vous connaissez. Et tu vas ramasser de l'argent. Donc toi, tu vas ramasser 20 millions d'euros. Et moi, tu vas me donner 2 millions d'euros pour que j'aille au Guéhinam en me taisant. Vous avez compris ou non? C'est-à-dire que c'est un vaudor. Il te propose un vaudor. Il m'a dit, mais vous savez, il y a d'autres rabbins qui ont accepté. Je dis, c'est pas grave, il faut bien qu'il y ait quelqu'un au Guéhinam. Il faut qu'il... Ouais. Il m'a dit, vous vous rendez compte ce que c'est 2 millions d'euros? Il dit, je sais ce que c'est le Guéhinam, toi. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? C'est-à-dire que tout le monde a des vaudors. Des fois, le veau d'or, c'est 1 million d'euros. Des fois, c'est la voisine. Chacun, il a un veau d'or. Des fois, c'est une vache d'or. Ouais. Mais ce que tu dois savoir, c'est que derrière le veau d'or, il y a toujours quelque chose de bien. Seulement, il faut dépasser le veau d'or. Maintenant, les preuves des Béné Israël, ils n'ont pas dépassé le veau d'or. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu peur. Cette peur, c'est quoi? Qu'ils n'avaient plus de dirigeants. Maintenant, c'est quoi le dirigeant? Essayez de comprendre. C'est quoi le dirigeant? C'est très simple. On dit « Katan en Bodaat ». Katan, un enfant, il n'a pas de da'at. On a expliqué tout ce que c'est le da'at, d'accord? Alors on dit, Gadol Omed Al-Gabav. Il y a un grand qui se tient au-dessus de lui. Un katan, il n'a pas de da'at, d'accord? Donc, vous, par exemple, vous lui dites, bon, écris le get. Il ne sait pas écrire le get, il est petit. Tu dis, bon, écris comme ça, il sait écrire les lettres. Et le Gadol, il dit, bon, ça écrit, vas-y, écris comme ça. Ça, c'est l'échem de cette femme, c'est pour cette femme. Donc, tu vois, l'enfant, il n'a pas de conscience, mais l'adulte, qui est au-dessus de lui, il a la conscience pour lui. C'est pareil, toi tu dis mon fils, c'est pas grave, il est petit, mais moi je suis là, on fait attention, on dit vous êtes au parc, il fait attention, tu dis attention, qu'est-ce que tu fais? Il conduit en voiture, il vient d'avoir son permis, tu restes assis à côté de lui, lui il est katan, aval, ata gadol. Gadol omed al gabav, il y a un gadol qui est au-dessus de lui. Donc son da'at à lui c'est toi, ça va ou non? Mais qui c'était le da'at des Béné Israël? C'était Moshe Rabbeinu. Maintenant que Moshe Rabbeinu il est pas là, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un essiah da'at, leur da'at il est parti. Quand il n'y a pas de da'at, le contraire du da'at, le contraire de la maturité, c'est quoi? C'est l'immaturité. Qu'est-ce que c'est l'immaturité? Maintenant, c'est la peur. Ils ont eu peur. Quand ils ont eu peur, le veau d'or. Mais suivi ou non? Parce que c'est marqué là-bas que quand eux, ils ont vu que Moshe Rabbeinu ne revenait pas, alors ils ont commencé à avoir des visions. Ils ont vu que Moshe, il est mort. Ils ont vu la tombe de Moshe Rabbeinu. Mais ça, c'est quoi ça? Sachez une chose. Dans une épreuve, ce qu'il faut comprendre, c'est pas l'épreuve en elle-même, c'est pourquoi elle t'arrive. Pourquoi elle t'arrive? Oui? Ah, il est venu. Il m'a dit, Rav Ben Chetrit, j'ai un gros problème. Ma femme, elle veut absolument regarder des films. Mais c'est une femme religieuse. Mais elle veut des films. Alors elle veut télécharger des films sur Internet pour voir. Mais pas des films sales, des films d'amour, des films à l'eau de rose. Il m'a dit, Rav, alors c'est assourd, dites-lui que c'est assourd. Je dis, moi, je vais lui dire ce que tu veux à ta femme. Mais j'ai une question. Pourquoi elle a besoin de regarder des films d'amour? Ça ne lui suffit pas son mari? Je vais, encore une fois, je vais aller dans ton sens, je vais t'aider. Mais rien, dis-moi une chose. Pourquoi elle a besoin? Ça veut dire, toi, tu dois réfléchir. Toi, tu regardes la Avera, mais tu dois regarder le terrain de la Avera. Comment non? Toi, tu t'énerves, pourquoi ton fils il fume? Mais demande-toi d'abord pourquoi il fume. Toi, tu t'énerves, pourquoi t'as trouvé du shit dans le sac de ton fils? Mais la question, c'est pas qu'est-ce qu'il fume, la question, c'est pourquoi il fume. Qu'est-ce qu'il a été chercher là-bas? Ça veut dire le problème, il est le terrain. qui a accueilli cette avéra. C'est pas l'avéra en elle-même. L'avéra, c'est un événement. Un événement, c'est un événement. Mais pourquoi elle est rentrée chez lui? Alors, il faut que tu trouves qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de fragile, de vide, pour que ça rentre dedans. Parce qu'il y a une place. Il y a une place. Alors, cette place, qui c'est qui l'a fait? C'est toi qui l'a fait. C'est ta femme qui l'a fait. C'est l'école qui l'a fait. C'est l'enfant qui l'a fait. Il faut que tu trouves. Parce que c'est pas possible que la chose allait rentrer s'il n'y avait pas la place. Il dit donc, le problème, il est là. Le Satan, il est venu chez les Israël. Il les a embrouillés. Pourquoi il les a embrouillés? Parce qu'il y avait un vide. Pour ça qu'il dit Raphaël Freelander, il dit « Ikar avodat a yetzerara ne balbel et adéot ». Le principal travail du yetzerara, c'est d'embrouiller l'esprit de quelqu'un. Parce que quand il t'a embrouillé, il fait ce qu'il veut avec toi. Comme un vendeur, un bon vendeur, qu'est-ce qu'il fait? Il t'explique un truc, après tu commences à écouter, tu poses des questions précises et lui il répond en général. Oui, comme ça, après il te prend la tête, après il te dit voilà les prix, voilà les tarifs, voilà les facilités de paiement. Mais, toi, mais la vraie question c'est, est-ce que j'en ai besoin de ce produit? Tu n'as même pas eu le temps de te poser la question, puisqu'il t'a fait tellement une belle affaire que même si tu n'en as pas besoin, tu dis mais de toute façon vous pourrez le revendre, et puis c'est un investissement, et puis c'est un placement, mais tu n'en as pas besoin. Il t'a embrouillé. Ikar avodat a yetzera, les balbel et adéot. Le yetzera, qu'est-ce qu'il fait? Il t'embrouille. Maintenant qu'il t'a embrouillé, il fait ce qu'il veut avec toi. C'est pour ça qu'on dit toujours à qui profite le crime. Tu dois être en train de réfléchir. Tu dis, bon, attends, maintenant, je vis une situation, quelle qu'elle soit maintenant, avec ma femme, avec mon mari, avec mes enfants, avec la mitzvah, avec la vera, n'importe quoi. Je dis, attends. C'est les choses, elles vont très vite. L'autre, il claque la porte, l'autre, il s'énerve, toi, tu trucs, tu cries, tu pousses, tu trucs. Attends. Mais qu'est-ce qui. Maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant? En temps réel? Oui? Et tu me dis, oui, Rabbi Shetri, ma femme, elle a dit à tout le monde que je suis un violent. En vérité, c'est pas que je suis un violent, mais elle était très énervée. Moi, j'ai voulu la calmer. Je lui mettais la main comme ça pour la calmer. Je lui disais, chérie, elle me repoussait. La quatrième fois, elle m'a repoussé, j'ai attrapé la main. J'ai tiré très fort la main. Elle s'est mis à crier, il me frappait. Après, elle est sortie dehors, elle a crié à tout le monde est venu, elle dit, mon mari est violent. Il m'a dit, alors, je suis pas violent. Je l'ai tenu la main parce qu'elle s'énerve. J'ai dit, quand quatre fois de suite elle t'a poussé, pourquoi t'as insisté? Il m'a dit, c'était pour la calmer. Mais tu vois bien que ça ne la calme pas, puisqu'elle te repousse. Tu dis, mais c'était pour la calmer. Okay. T'es à là ou quoi? C'est là qu'il faut prendre la photo. Tac, maintenant. Une fois, tu vas la caresser, elle dit non. Une fois, deux fois, trois fois. Ça veut dire, on peut pas essayer de calmer quelqu'un quand il est en colère. Alors tu enlèves ta main, tu restes comme ça, tu dis, bon chéri, tu veux qu'on parle? Parce que tu vois que ça ne marche pas. Mais si tu insistes, Elle se défend. Tu te défends. Elle se panique. Elle devient espagnole. C'est ça le problème. C'est que toi, tu n'as pas vu que la chose, elle a dégénéré. Parce qu'il y a un moment où il y a un autre, il y a un vide qui est rentré dans ta tête. C'est que tu as arrêté de réfléchir. Et c'est cet espace-là que le Satan, il est rentré en toi. Donc, encore une fois, ils n'ont pas vu Moshe Rabbeinu revenir, ils ont eu peur. Comme ils ont eu peur, il y a eu un vide. Dans le vide, il est rentré le doute. Et le doute, il a amené le veau d'or. Donc ça veut dire que le vrai problème, c'est pas l'événement. Le vrai problème, c'est le terrain dans lequel tu accueilles l'événement. Est-ce que tu accueilles l'événement dans un terrain qui est fort, ou est-ce que tu accueilles l'événement dans un terrain qui est faible? Maintenant, si toi, tu es dans un terrain qui est faible, c'est sûr que tu vas avoir des problèmes, tu sais d'avance. Tu veux rentrer dans le business et tu trembles. Tu veux aller parler à ta femme, mais t'es énervé. Tu veux parler avec ton fils, mais t'as envie de le frapper. Non. Si tu veux le frapper, c'est pas maintenant qu'il faut parler. Va te calmer, va prendre une douche, va mettre un coup de tête dans la baignoire. Après, tu vas lui parler. Mais tu dis, maintenant, il faut que je lui parle maintenant. Mais tu vas massacrer l'histoire, c'est sûr. Parce que le terrain, il est pas bon. Si le terrain, il est pas bon, comment elle va se terminer bien l'histoire? C'est évident, non? Pourquoi on raisonne pas comme ça? Au moment même, après, tout le monde raisonne comme ça. C'est facile. Au moment, pourquoi on n'arrive pas? Parce que Ikar Abodat Ayetzera, les balbel et Tadehot, c'est qu'au moment de l'événement, il t'embrouille. Parce qu'il sait que quand il t'embrouille, il peut te manipuler, il fait ce qu'il veut avec toi. Il dit, ça c'est quoi? Il dit, ça, ce vide-là, lui, il a été créé par quoi? Il a été créé par le Satan. C'est quoi le Satan? Les gens, ils croient que le Satan, c'est Satan, c'est l'Yetzera, c'est... Non, c'est très très clair. À l'intérieur de toi, on dit l'ibochel Adam, le cœur de l'homme, il est divisé en deux. Yetzera, Yetzera Tov. D'accord? Les psychologues, ils disent le côté constructif, le côté négatif, le destructif. Les psychiatres, ils disent la tendance vers la mort, la tendance vers la vie. Les Chinois, ils disent le yin et le yang. On est tous d'accord qu'à l'intérieur de nous, on est deux. Maintenant, un des deux, c'est toi, un des deux, c'est pas toi. Le problème, c'est que quand c'est pas toi, c'est qui? sais pas si vous me suivez. Quand c'est pas toi, c'est qui? Non, mais c'est un problème, c'est qui? Parce que les gens qui croient pas au Yetzara, ils ont un problème. C'est que quand ils te disent bon, je sais que c'est pas bien, je n'étais pas moi-même. Alors j'étais qui? C'était plus fort que moi, c'était plus fort que toi, c'est toi qui es plus fort que toi. C'est bizarre, non? En français, ils disent j'étais hors de moi. Ouais, j'étais hors de moi. Mais comment t'es hors de toi? Quand t'es là, t'es là. J'étais hors de moi. En français, on dit marcher à côté de ses pompes. Il y a des pompes ici, tu es à côté des pompes. Comment c'est possible? Et cette logique, elle est très simple. C'est que quand toi, tu n'es pas dans ta réalité, tu es en dehors de ta réalité. Maintenant, en réécoute Barolam, c'est une loi physique. Le vide n'existe pas dans le monde. Tu prends une bouteille, tu la vides, il y a de l'eau. Tu enlèves l'eau, il y a de l'air. Tu remets de l'eau, il n'y a pas d'air. D'accord? Il n'y a pas de vide. C'est une loi physique. Ouais? Alors toi, si tu n'es pas dans toi, c'est quelqu'un d'autre. C'est facile. Ça n'existe pas. Ou c'est toi? C'est ça ce qu'ils appellent les chachamim. Rechaim itzram beyadam. Leur yetzera, il est dans leurs mains. Sinon, beyad itzram, les rechaim, ils sont dans les mains de leur yetzera. C'est-à-dire que quand quelqu'un, il n'a pas pris sa vie en main, elle va être prise en main par quelque chose d'autre. Il y a, parce qu'il n'y a pas de vide dans le monde. Si tu dis non, c'est pas moi, mais c'est moi. Il dit, comment ça s'appelle ça? Vous savez que c'est marqué que Yaakov Avinu, c'est le symbole de l'homme. Parce qu'on dit que le visage de Yaakov Avinu, il est gravé sur le trône céleste, sur le Kissé HaKavod. Alors maintenant, c'est lui qui représente l'homme. Le but de l'homme, pour Akadosh Baruch Hu, c'est Yaakov Avinu. Tous les événements qu'on voit écrits dans la Torah avec Yaakov Avinu, ce sont des événements qui définissent l'homme dans sa plus pure définition. Maintenant, tout le monde connaît l'histoire que Yaakov Avinu, il s'est séparé de Esav. Vous vous rappelez? Il est sorti, Vayetse Yaakov. Après, ils se sont rencontrés à nouveau. Et Yaakov, il a eu très très peur de rencontrer Esav. Pourquoi? Parce que Esav, il voulait le tuer. Esav, il voulait le tuer. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov? Il s'est séparé. Il a séparé sa famille en deux. Ouais. Il a mis d'un côté. Et il a fait deux machanot, deux camps. Et là-bas, hein, la Torah, elle raconte qu'il avait oublié, dans l'ancien campement, il avait oublié des petites fioles d'huile. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné, il a retraversé le fleuve, il est retourné pour aller chercher ses fioles d'huile. Maintenant, comment il s'appelle ce fleuve? Il s'appelle Mahavar Yabok. Yabok, ouais. Yabok, c'est quoi? C'est le fleuve du Guéhinam. C'est un fleuve qui est au Guéhinam. Quand il a été chercher les petites fioles d'huile, c'est quoi ces petites fioles d'huile? Nous, on croit qu'il a été chercher des petites fioles, ouais. Le Zohar, il dit que ces petites fioles d'huile, c'est quoi? C'est la petite fiole qu'ils ont trouvée, les Hashmonaïm, pour faire Hanouka. Attends, mais quel rapport? Yaakov Avinu, Hanouka, c'est comme 1500 ans après, quel rapport? Et lui, il est passé de l'autre côté du fleuve, et le fleuve, c'était le fleuve du Guéhinam. Et dis-moi, franchement, un type qu'il y a un tueur, et ça, avec 400 tueurs, 400 samouraïs, qui sont venus pour le massacrer. Il laisse sa femme et ses enfants, il laisse ses femmes, ses enfants, et lui, il va chercher des fioles d'huile. C'est bizarre, non? C'est pas un idiot, Yaakov. Mais il faut se mettre là, pour les défendre, il faut pas partir. Premièrement. Deuxièmement, avec qui il s'est battu exactement? On dit pendant toute la nuit, ensuite il est arrivé à l'endroit, il a été attaqué par qui? Par le prince, le tsar de Esav. Ouais. Mais c'est qui le prince de Esav? C'est l'ange de Esav, ouais, c'est qui? Alors, on savait que ce monde-ci, il existe en double. Le monde matériel, le monde spirituel. D'accord? Aujourd'hui, les scientifiques, ils disent le monde de la matière, le monde de l'antimatière. Nous, on dit Yerushalayim shel Mata, Yerushalayim shel Mahala. Tout ce monde-là, tout le monde, tout dans tous les détails, il est reproduit exactement dans le monde supérieur. Exactement. Ça va? Vous me suivez ou non? Même la Gemara, elle dit que chaque personne, elle a un mazal, elle a un ange. Ouais, qui le protège. Chaque animal, il a un ange qui lui dit quoi faire. Chaque brin d'herbe, il a un ange. Ça veut dire quoi? Ce monde-ci qui existe au niveau matériel, il existe au même, le même niveau au niveau spirituel. C'est clair? Alors attention maintenant. Chaque pays, il a un ange qui le maîtrise. Chaque pays. C'est-à-dire que vous avez ici le pays de l'Iran. Il y a un ange de l'Iran, là-haut. Ouais. Et il y a un ange de l'Irak. Et il y a un ange de... Maintenant, chaque peuple, il a un ange. Maintenant, comment il s'appelle l'ange de Esav? Vous ne connaissez pas les anges? Vous n'avez pas fait trop de Kabbalah? Hein? Il s'appelle Yetzerara. Le Yetzerara, c'est l'ange de Esav. Comment il s'appelle l'ange d'Israël? L'ange qui protège Israël, c'est qui? Gabriel, Michaël. Vous savez qui c'est ou non? Hachem lui-même. Akadosh Baruch Hu, Birvodo, Biratzmo, il nous protège. Ça va? Alors moi, je vous demande de bien réfléchir. La Gemara, elle dit dans Baba Batra, Dafyud, elle dit, Ayetzerara ou Asatan ou Amalachamavet. Il y a un ange qui a trois facettes. Trois facettes, un seul ange. Il est en même temps le Satan, ouais, en même temps le Yetzerara et en même temps l'ange de la mort. Maintenant, c'est quoi le Yetzerara? Le Yetzerara, on a dit que c'est à l'intérieur de la personne, il y a deux côtés. Il y a un côté positif et un côté négatif. Donc, celui qui te pousse à faire la Avera, celui qui est à l'intérieur de toi, ouais, c'est le Yetzerara. C'est facile. La deuxième facette de ce même ange, c'est le Satan. C'est quoi le Satan? Le Satan, c'est celui qui te propose la Avera à l'extérieur. Qui c'est qui organise? Maintenant, tu veux faire une Avera. Qui c'est qui organise la Avera? C'est le Satan. Et qui c'est qui est mastin alecha? Qui c'est qui t'accuse devant Akadosh Baruch Hu quand tu fais une faute? C'est le Satan. Parce que Satan, ça vient de l'astin. Ouais? On réfléchit bien maintenant. Le Satan, c'est en même temps le Yetzerara, en même temps le Satan, en même temps l'ange de la mort. Pourquoi? L'ange de la mort, c'est qui? C'est celui qui tue. Voilà. Maintenant, pourquoi il y a une correspondance entre les trois? Parce que les trois, c'est la même chose. Par exemple, tu vas demander à un médecin. Il va te dire, vous savez, les trois quarts des maladies sont d'origine personnelle. Maintenant, quelqu'un, il s'angoisse. Quand il s'angoisse, ouais, il crée un dérèglement à l'intérieur de lui-même au niveau psychologique. Ce dérèglement, il crée un dérèglement au niveau hormonal. Le dérèglement hormonal, il fait un dérèglement au niveau chimique. Et le dérèglement chimique, il fait un dérèglement au niveau cellulaire. Le dérèglement au niveau cellulaire, il crée un cancer. Il crée un ulcère. Maintenant, je pose une question. Alors, qui c'est qui t'a rendu malade? Tu sais, ma belle-sœur, ça fait des années qu'elle me torture. Tu sais, mon beau-frère, tu sais, mon mari, il m'empêche. Non, 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 non. Lui, il est comme il est. Il est fou, il est normal. Mais pourquoi ça rentre chez toi? C'est toi, ça. Tu veux, non? Donc, l'ulcère, c'est toi. C'est pas lui. Lui, il est fou. Mais toi, pourquoi t'es malade? C'est l'ulcère. Elle est folle. Mais pourquoi t'es malade, toi? Alors, écoute bien maintenant. L'ulcère, oui, c'est physique. Maladie physique, ça vient de la tête. La tête, c'est la conscience. La conscience, c'est la force ou la faiblesse. Maintenant, à l'intérieur de toi, il y a une impulsion négative. À l'extérieur de toi, il y a une proposition. Maintenant, ton mari, il peut être l'agent du Yetzerara. Ta femme, elle peut être l'agent du Yetzerara. Parce qu'il y a une épreuve pour toi, comme ton fils. Maintenant, le Yetzerara, c'est quelqu'un qui peut te faire grandir ou qui peut te faire plonger. Donc, quand ton fils, il te pousse à bout, ouais, dans l'absolu, c'est pour te faire grandir. Donc maintenant, ton fils, il est manipulé par les Yetzerara pour que toi, tu grandisses. Maintenant, ou à Satan ou à Yetzerara. Maintenant, lui qui te propose la Vera, si tu le prends mal, tu te rends malade à cause de qui? À cause de qui? Hein? À cause de toi. Donc, ou à Yetzerara ou à Satan. Maintenant, la pauvre, elle en est morte de cet ulcère. Qui c'est qui l'a tué? L'ange de la mort. C'est qui l'ange de la mort? C'est toi. Ou à Satan, ou à Yetzerara, ou à Malachamavet. Vous avez compris? C'est pour ça que c'est marqué En Anamet et Lenkan Hoté. Un homme ne meurt que s'il a fauté. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Satan, c'est Yetzerara. Le Satan, c'est Yetzerara. Maintenant, on a dit que l'ange de Esav, c'est Yetzerara. Maintenant, avec qui il s'est battu? Yaakov Aminou, pendant toute la nuit, avec qui il s'est battu? Avec l'ange de Esav. C'est qui l'ange de Esav? Le Yetzerara. Alors avec qui s'est battu Yaakov?
Avec lui-même.
Avec lui-même. Il s'est battu tout seul. Tu dis, mais il est fou, quoi.
Lui a fait
l'observation. Là? Non, c'est tout lui-même. Non, mais c'est pas grave. Attendez, je vous explique. Bonsoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand c'est marqué que Yaakov, il a laissé. En vérité, on n'est pas obligé d'imaginer. Ça, c'est au niveau du pshat. Mais en vérité, Yaakov, il est resté avec sa famille. Ouais? Mais d'abord, il a fallu qu'il se batte dans sa tête avec le Esav. Qui c'est le Esav? Avant de rencontrer le Esav physique, tu vas rencontrer d'abord le Esav spirituel. C'est qui le Esav spirituel? C'est ta peur. Tu veux la preuve? Demain, tu as un examen. Demain, tu as un examen. Ouais? Maintenant, toi, tu as travaillé à l'école. Pourquoi il y en a, ils arrivent devant l'examen? Ils ont ce qu'on appelle le syndrome de la feuille blanche. Ils n'arrivent plus. Je suis paniqué, j'ai angoissé, j'ai que 3 heures, je vais rater, ils font rien. Je comprends pas, t'as été à l'école, t'as travaillé, t'as préparé, t'as fait tes interros. Pourquoi t'es planté? Tu sais pourquoi? Parce qu'il s'est préparé intellectuellement, il s'est préparé physiquement, mais il s'est pas préparé mentalement. Ça veut dire que d'abord, il faut d'abord que tu fasses l'examen mental avant de faire l'examen physique. Toi, demain, tu as rendez-vous avec un gros patron, ouais, pour signer un gros chèque. Tu dis, mais j'ai peur, si je suis nul, si je ne suis pas capable. Écoute, tu as rendez-vous, tu connais ton produit, tu vas y aller. Donc, quand tu te prépares mentalement, ouais, tu te prépares à rencontrer physiquement. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, l'événement lui-même, il a un ange. Chaque événement, il a un ange. L'ange, c'est quoi ? C'est la peur que tu en as. Maintenant, l'ange, il rentre chez toi et il t'embrouille. Si toi, tu es fort, tu as d'abord gagné le combat avec l'ange de l'événement, avant l'événement. D'abord, tu te bats avec l'ange de Esav, après, tu te bats avec Esav. Ça va ? Donc, Yaakov Aminou, il est passé de l'autre côté du fleuve du Gehinam. Mais c'est normal, parce que le Gehinam, c'est quoi ? Le Gehinam, c'est Olam HaChisaron. Vous voyez, comme ça, c'est marqué dans les livres. Et le Chisaron, c'est quoi ? C'est l'homme, parce que l'Olam Adam Hasser, dit le Maharal. Donc, le Hasser de l'homme, c'est le manque. Mais le manque, c'est quoi ? C'est Yetzer Hara. Maintenant, Yetzer Hara, il a créé chez toi un manque. Maintenant, toi, tu as deux manières. Ou tu vas te regarder comme un handicapé, ou tu vas te regarder comme un type normal. Ou tu vas te regarder comme un nul, ou tu vas te regarder comme un bon. Si tu te regardes comme un nul, le Satan, il est chez toi. Maintenant qu'il est chez toi. Allez, va te battre maintenant. C'est foutu. Donc, d'abord, il faut que tu te battes avec ta peur avant que tu te battes avec l'événement lui-même. Donc, il fallait d'abord que Yaakov se batte avec l'ange de Esav qui était en lui. Parce qu'on a dit ou à Satan ou à Yetzer Hara. Vous me suivez ou non ? C'est-à-dire que toute la force de Satan, c'est ta faiblesse à toi. C'est pour ça que quand on veut soigner un malade, il faut d'abord lui remonter le moral avant de lui donner les médicaments. Parce que s'il n'a pas le moral, qu'est-ce que tu veux que la chimie elle fasse si lui, mentalement, il pense qu'il est mort ? Essaye de faire une piqûre à un mort. Un type, il est mort. Le cerveau s'est arrêté, le cœur s'est arrêté. Tu lui mets des vitamines. Vas-y, mets-lui des vitamines. Ça sert à rien. Vous comprenez ou non ? Tu vas mettre des vitamines à un mort ? Ça sert à rien. Par contre, quelqu'un, tu lui remontes le moral. On va s'en sortir. C'est sûr que ça va aller, tu vas voir. Mais c'est connu. Les gens qui ne sont pas suivis dans leur chimiothérapie, ils sont sûrs qu'ils vont mourir. Non, n'importe quoi. L'autre, il a eu une crise d'hémiplégie. Ouais. Il a la moitié du corps qui est handicapé. C'est rien que la volonté. Avec la volonté, il peut tout récupérer. Mais si il tombe en dépression, ça sert à rien, le kiné, le truc, ça sert à rien, le mec il y croit pas. Si lui il y croit pas, c'est-à-dire que si lui il a fait rentrer le Satan en lui, c'est-à-dire il a fait rentrer la peur en lui, il a fait rentrer le doute en lui, c'est fini, ça sert à rien. Tu parles à un mort. Un mort, ça sert à rien de lui donner des vitamines. Donc tu es obligé d'abord de lui enlever sa peur et après tu vas le soigner. D'abord tu lui donnes envie de vivre et après tu lui donnes les médicaments. Ben, c'est exactement pareil. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Yaakov, lui, il devait se battre avec le Satan. Mais on a dit que Yaakov, c'est le modèle de l'homme. Mais alors, quelle est la force du Satan ? C'est la faiblesse de l'homme. Parce qu'en toi, il y a un nul et il y a un bon. Maintenant, si toi, tu tournes vers le nul qui est en toi, tu es foutu. Alors, qu'est-ce que tu dois faire ? Tu dois dépasser le nul qui est en toi. Maintenant, le nul qui est en toi, il ne se nourrit que d'une chose. Du doute. Le doute, c'est la nourriture du Satan. Quelqu'un qui est sûr dans le bien, il va faire du bien. Quelqu'un qui est sûr dans le mal, il va faire du mal. Mais quelqu'un qui a un doute dans le bien ou dans le mal, il est foutu. Alors chez les pauvres types, le doute, ça s'appelle l'ignorance. Chez les intellectuels, ça s'appelle la réflexion. J'ai une grande réflexion intellectuelle sur la dualité de la perception du divin. Mais dis-moi, tu manges caché ? Non. Trompe ta femme ? Oui. Alors, c'est quoi ton problème de dualité du divin, puisque tu trompes ta femme ? Pourquoi tu parles de religion alors que tu t'en fiches de la religion ? Donc, lui, il a choisi le pluriel, parce que le pluriel, ça lui permet. Le doute au pluriel, ça l'intéresse. Lui, il a choisi l'ignorance. Les deux, ils sont foutus. Toi, tu es obligé d'être clair. Ça veut dire qu'on a dit que la déa, c'est la connaissance, c'est l'affirmation. Le contraire, c'est le doute. Maintenant, on a dit le doute, c'est quoi ? C'est l'espace que tu as créé chez toi pour que la peur, elle rentre. Maintenant, quand la peur, elle est rentrée, elle peut faire n'importe quoi avec toi. Ça s'appelle Bilbou la déesse. Si toi, tu veux éviter le Yetzer Hara, si tu veux éviter les bêtises, il faut absolument que tu sois clair. Il faut être clair. Mais il faut être clair à chaque étape. Mais si toi, tu laisses rentrer la peur, si tu laisses rentrer l'embrouille, si tu laisses rentrer le manque de clarté, c'est parce qu'en fin de compte, t'es intéressé. Celui qui dit « je ne savais pas », mais on n'a pas le droit de… Nul n'est censé ignorer la loi. Celui qui dit « j'ai pas réfléchi », c'est interdit d'être idiot. Celui qui dit « j'avais pas conscience », mais c'est quoi la conscience ? C'est de s'y mettre. C'est toujours, on dit, ouais, vous savez, lui, c'est un spécialiste, bon, il connaît le truc. Mais comment le premier qui connaissait, comment il est devenu le premier spécialiste? Il n'a pas appris de quelqu'un qui connaît, parce qu'il était le premier. Eh bien, le premier, il a mis son cœur dedans. Alors, je vous dis un truc, ne le répétez pas. Hein. Mais chacun qui met son cœur dedans, il devient spécialiste. Ne le dites pas. Hein. Parce que nous, on dit, oh, il est vachement, il connaît vachement. Non, il ne connaît pas plus que toi. Sauf que lui, il a mis son cœur. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu comptes sur le cœur que lui, il a mis. C'est pour ça que tu n'avances pas. Rashi dit ça dans Osek Bamitzvah, Patomina Mitzvah. Il dit Osek Liyot Baki Badava. Tu dois t'occuper d'être Baki Badava. Tu dois être clair dans la chose. Maintenant, celui qui est clair, il n'a pas de doute. Celui qui n'a pas de doute, le Satan, il ne rentre pas chez lui. Parce que la nourriture du Satan, la nourriture de la peur, c'est le doute. Maintenant, le vrai problème, il est de savoir pourquoi les trois quarts des gens, ils cultivent leur doute. Ils cultivent leur doute. On peut dire comme ça, c'est pas évident qui a dit où c'est marqué, puis à quoi ça sert, et puis je m'en fiche, je fais ce que je veux, puis c'est, pas, puis c'est dur, et pourquoi maintenant, et peut-être demain. Mais je comprends pas, mec, pourquoi? Tu travailles pour qui maintenant? C'est ça le problème, vous comprenez ou non? Encore une fois, à qui profite le crime? Les gens, ils veulent le savoir. Alors c'est vrai, c'est faux, c'est bien, c'est pas bien. Mais toi, toi maintenant, toi, c'est maintenant. Comme l'autre, il me dit, oui, mais Rav, les femmes en général. Mais on parle pas des femmes en général, on parle de la tienne. Oh, mais elles sont comme, oh, les Marocaines, elles sont comme, oh, les Tunisiennes, elles sont comme, oh, les Libanaises. Mais toi, Yahma, la tienne, comment elle marche? Tu sais comment elle marche, la tienne? Ou t'as des généralités? Si t'as des généralités, c'est qu'elle t'intéresse pas, la tienne. Comme toi, t'as des principes sur les hommes. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche des hommes? T'as un problème avec ce monsieur. C'est ton mari. Tu dis, ouais, mais on sait comment ils sont. Alors, pourquoi maintenant tu parles au pluriel? Parce que le pluriel, c'est le plus, c'est le doute. Et le doute, c'est le flou. Et le flou, c'est la culture du flou. Les gens, ils cultivent leur doute pour éviter d'avoir abordé la violence de la vérité. Parce que la vérité, elle est violente chez ceux qui l'évitent. Alors que nous, comment on appelle la vérité? Eh ben, c'est la clarté. C'est pas grave. C'est propre, tu vois. C'est propre. Tu vas me faire un contrat propre. Il y a une maison, il y a un vendeur, il y a une banque, il y a une signature. Qu'est-ce que tu fais, un tralouen? En vérité, la maison, elle appartient à quatre personnes. Il y en a deux qui sont des héritiers. Mais le troisième, il embrouille le notaire. Et celui-là, il s'arrange avec l'avocat. Celui-là, il a donné les clés au concierge. Mais celui-là, il est squatteur depuis 3 ans. Et celui-là, oh là là, fais-moi un truc propre. Net. Ah, tu sais, ça n'existe pas, les affaires comme ça. Pourquoi pas propre? Fais-moi du propre. Oui, c'est pareil. L'autre dit, bon, j'ai rencontré une femme. Bon, mais au moment où je l'ai rencontrée, elle était mariée. Mais elle était mal avec son mari. Bon, mais j'ai couché avec elle. Mais on a fait avec un préservatif. Donc, je sais pas, ça s'appelle pas une vraie roulette. Mais qu'est-ce que tu es en train de me faire, un tralouen? Elle est mariée. Tu t'approches pas d'elle. Maintenant, si tu penses que c'est vraiment ton âme sœur, tu attends qu'elle divorce. Maintenant qu'elle est divorcée, tu la rencontres, tu la touches pas, tu fais une roupa et tu fais ce que tu veux. Ah non, 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 tu fais tout tralouen. Oui. Les gens, ils font des tralouen. Et il est venu chez moi, il m'a dit, Rav Ben Shetri, je vous explique. J'ai beaucoup d'argent. Déjà, quand il commence comme ça, c'est mauvais. Et je suis responsable de 19 restaurants. Ouais, il est venu. Il m'a dit, voilà, moi, je voulais un enfant, mais je voulais pas de femme. J'ai trouvé une femme, une jeune fille de 20 ans, je lui ai donné 20 000 francs. Une histoire vraie. Je lui ai dit, je vais faire un bébé. Mais je te préviens, signer sous contrat que je t'achète le bébé. Il a acheté le bébé de la mère. Une mère porteuse. Il a donné 20 000 francs, une petite jeune de 20 ans. Elle a dit, ouais, c'est super, je vais faire un bébé, je vais gagner 20 000. Manque de peau. Vous savez comment elle est faite, la nature? La femme, pendant les 9 mois, elle s'est attachée au bébé. Elle a dit, je ne lui donne pas le bébé. Il a dit, mais tu l'as vendu. Regarde un peu la discussion. Le type, maintenant, il a travaillé sur cette fille pendant 9 mois. 9 mois après, elle a accouché le bébé. Elle a dit, bon, d'accord, je laisse le bébé. Il a pris le bébé. Au bout de 4 mois, il s'est rendu compte que le bébé, il a besoin de sa mère. Maintenant, elle a fait un travail sur elle pour prendre le deuil du bébé. Il retourne chez elle et lui dit, tu sais, il a besoin de sa mère. Aoud, elle comprend plus rien, tu vois. Genre maintenant, elle redevient la mère. Elle était maintenant une étagère, elle est devenue la mère. C'était une étagère, il y avait un bébé dessus, un tiroir. Oh, le tiroir, t'as plus de bébé, tu refermes le tiroir, tu dégages le tiroir. D'accord. Il lui dit, retourne là-bas. Après, il lui dit, bon, je te redonne 20 000 francs pour que tu acceptes de te conduire comme une mère, mais sans être la mère. Il a payé, hein. Elle a accepté, d'accord. Après, il lui dit, mais quand même, il lui faut une maman. Elle veut se marier, mais ça pourra pas être sa mère, parce que c'est pas sa mère. Il est venu chez moi, comme ça, monsieur l'intelligent. Je lui dis, écoute, c'est JH2 ça, en chimie, JH2, jeune Hamar au carré. Ouais. Hamar, au carré. C'est... Je lui dis, écoute, je dis, tu sais quelle est ton erreur? C'est comme le bon Dieu, il t'a donné de l'argent. ou la 2 ou la 5 ou la 6 millions de francs, tu as cru que tu étais le bon Dieu. Le bon Dieu, il a fait un modèle. Tu rencontres une femme, tu aimes cette femme, tu te maries selon la halakha, tu vas avec elle, il y a un bébé qui naît. Tu vois, l'ordre des choses, il est bon. Là, tu dis non. Je couche avec elle, je fais un bébé, je garde pas la mère, je garde le bébé, j'ai besoin de la mère, j'ai besoin du bébé. Mais tu te prends pour le bon Dieu, ça s'appelle l'apprenti sorcier. Mais le bon Dieu, il a donné des règles. Elles sont bien, elles marchent très bien, elles marchent bien. Toi, tu dis non, comme j'ai gagné de l'argent, je suis haram. Quel rapport ? Alors l'autre, il croit qu'il est haram parce qu'il a un doctorat. Celui-là, il est haram parce qu'il a 5 restaurants. Celui-là, il est haram parce qu'il est malin. Mais même si tu es intelligent, allez, tu sais quoi, on va te laisser ça. Tu es un intelligent, ouais. Mais tu n'es pas le bon Dieu. Le bon Dieu, il a fait une règle qu'un enfant, il a besoin d'une maman et d'une papa. Il y a des règles. Il y a besoin d'un engagement. Maintenant, toi, tu couches avec elle, ça ne veut pas dire que tu l'aimes. Tu dis non, mais je l'aime pour l'instant, jusqu'à la voisine. D'accord ? Donc, ça veut dire quoi ? Donc, on a donné des règles. Pourquoi il faut se marier ? Je n'ai jamais demandé. Une fois, quelqu'un est venu chez moi. Il m'a dit mais chéri, je ne comprends pas. Pourquoi ? La choupa, la soirée, le traiteur. Les témoins, le rabbin, la synagogue, le photographe, l'orchestre. Écoutez, moi, j'ai rencontré une fille, elle me plaît, on vit ensemble, et c'est très bien. Il me dit, pourquoi on a besoin de tout ça ? Et l'actuva, et les avocats, et les lois, même les goyim, ils ont fait plein de lois pour le mariage. À quoi ça sert ? Elle te plaît. Voilà, tu rentres dans un magasin, tu vois une belle bouteille de vin, elle est belle, tu la prends, tu la payes, tu la bois, tu rôtes, et tu la jettes. Est-ce qu'il y a des lois ? Est-ce qu'il faut une ktouva ? Est-ce qu'il faut une soirée ? Est-ce qu'il faut des témoins pour boire une bouteille de vin ? Alors il m'a demandé pourquoi pour se marier c'est tellement compliqué. Je dis parce que le mariage c'est tellement fragile, c'est tellement magique, c'est tellement spécial. Parce que tu vas mettre de l'amour entre un homme et une femme. Pour protéger ça, il faut des règles très très strictes. Ketouva, mikvé, alaha, d'accord ? Roupa, témoin, famille, traiteur, engagement, 200 000 euros, c'est beaucoup. Il faut beaucoup d'engagement pour que ça tienne. Parce que c'est quelque chose de fragile. Mais c'est comme si tu prends, tu ouvres une bouteille de parfum, tu fais comme ça, tu dis, allez, va chercher le parfum. L'amour, c'est un parfum extrêmement fragile. La shérina, c'est un parfum extrêmement fragile. Pour conserver un parfum comme ça, il faut des compartiments étanches, très solides. Ben c'est exactement pareil. Non, tu sais, tout ça, c'est des rabbins, ça, c'est des embrouilles, ça, c'est de l'époque. Nous, aujourd'hui, on a une vision éclairée. Tellement ils sont éclairés qu'ils font ça en bas, dans les couloirs, en bas dans la cave, tellement ils sont éclairés. Je dis, écoute, Yahmar, le bon Dieu, il a créé des règles. Ces règles-là, il les a créées avant que le monde existe. Maintenant, toi, tu veux jouer avec les règles, mais les règles, elles font partie de toi. Toi, tu fais partie des règles. Donc, les règles, quand tu joues avec les règles, ça se retourne contre toi. Vous savez, aujourd'hui, maintenant, ils ont une multiplication des cancers. Ils n'arrivent pas à gérer. Oui, oui. Mais vous savez d'où viennent les cancers, les trois quarts ? Ils savent, c'est de la chimie. C'est de la chimie. Ben, t'as joué avec la définition de la farine, la définition de l'huile. T'as embrouillé ça, t'as mis du chlorure, t'as mis ça, t'as mis des trucs dans les bonbons, t'as mis dans les peintures. Maintenant, le mec, il respire de l'acide dans la peinture de sa maison. Il respire du truc, il mange. Les jouets de son fils, c'est un poison. Mais il ne sait pas tout ça. Il dit, faut pas exagérer. Ben, dis-moi, ça fait 10 ans que tu manges de la dioxine. Heureusement que tu prends du lait bio. Ça veut dire que le plus grand danger pour l'homme, c'est l'homme. Qui c'est qui a dit ça ? C'est pas moi, c'est le professeur Reeves. C'est Reeves. C'est pas religieux, mais il a une barbe. Il a dit, l'homme, il a plus détruit le monde en 150 ans qu'en 15 millions d'années. Parce que d'après le monde, il est vieux. Ouais. En 150 ans, genre maintenant. Et depuis quand ? Depuis l'ère industrielle. L'époque des Lumières. Comme l'homme, il a commencé à maîtriser la nature. Donc l'homme, il s'est pris pour un apprenti sorcier. Alors le bon Dieu, il a dit, tu maîtrises tout. Il a dit, brasse, on va voir ce que tu vas faire. Voilà, ils arrivent maintenant. Ils ont dit ça, même pas si avant les élections, le monde, il va pas exploser. On est juste. Ouais. Ils sont en train de se battre pour le troisième millénaire, mais qui c'est qui va rester vivant au troisième millénaire ? Il n'y a presque plus d'eau, il n'y a presque plus d'air, il y a presque... De quoi on parle ? Ouais. C'est quoi cette logique ? La logique, c'est très simple. C'est qu'à chaque fois que toi, tu te prends pour le bon Dieu, il t'explique que c'est lui le bon Dieu. C'est très simple. Oui. Il dit, cette notion, c'est quoi ? C'est que pour pouvoir rentrer dans une dimension pareille, tu as besoin du doute. Or, on a dit que la culture du doute, c'est le terrain du Yetzer Hara. C'est là qu'il rentre. Maintenant, toi, tu as une mitzvah. Maintenant, pourquoi c'est marqué « Barati lecha Yetzer Hara, Barati lecha Torah Tavlin ». Je t'ai créé, Hachem il a dit, je t'ai créé le Yetzerara, je t'ai créé la Torah en médicament. Quel rapport entre la Torah et le Yetzerara? La logique elle est très simple. La Torah c'est la connaissance. C'est la clarté. Parce que Torah c'est aura. Aura c'est la lumière. Maintenant, Yetzerara c'est Rocher, c'est l'obscurité. Le Yetzerara il a besoin du flou. La Torah elle a besoin de la clarté. La Halacha, c'est la manière de se déplacer, il faut être clair. Oui. Donc c'est pour ça qu'un homme, il est obligé d'avoir les choses claires. Veshinantam levanecha, on dit Veshinantam levanecha, tu l'enseigneras à tes enfants. Il dit, la Gemara dit, c'est quoi Veshinantam shinun, c'est chidoun. Oui. Hachiyu divrei Torah mechudadim beficha. Jusqu'à ce que les paroles de la Torah, elles soient aiguisées dans ta bouche, aiguisées. C'est-à-dire que tu dois avoir une manière claire de connaître et de savoir. Pourquoi? Parce que celui qui est ignorant, ouais, même dans la loi Goy, tu arrives chez le juge. Tu dis, mais monsieur, je ne savais pas. Il dit, mais monsieur, vous avez lu le contrat? C'est marqué lu et approuvé. Vous avez lu et approuvé? Il dit, non, mais tout le monde marque lu et approuvé, mais je ne l'ai pas lu. Mais si tu ne l'as pas lu, bah, tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Donc comment quelqu'un y croit qu'il va arriver là-haut? Et le bon Dieu va lui dire, mais enfin, pourquoi tu n'as pas fait la Torah? Il m'a dit, mais je ne l'ai pas lu. Mais c'est marqué lu et approuvé. Lui est approuvé. Ah, tu dis, mais tu es marié. Oh, mais ma femme, je ne la comprends pas. Mais ta femme, il faut la lire et l'approuver. Ton mari, il faut le lire et l'approuver. C'est quoi lire? T'asseoir, réfléchir, essayer de comprendre comment il fonctionne et approuver et accepter ton mari, accepter ta femme. Si tu dis, non, je ne veux pas lire. Mais si tu ne veux pas lire, baba, ça ne va pas s'arranger. Ça ne va pas s'arranger. Si tu veux pas comprendre, ça va pas s'arranger. Si tu donnes pas les moyens, ça va pas s'arranger. Tu dis, ouais, mais ça s'arrange pas, mais c'est pas de ma faute. Mais on s'en fiche que c'est de ta faute ou c'est de sa faute. Le problème, c'est que la situation, elle est en train de pourrir. C'est qu'en vérité, encore une fois, ce qu'il faut comprendre, c'est jamais le problème qui est important. Le problème, c'est comment on le gère. Maintenant, si toi, t'es intéressé à ne pas gérer le problème, c'est-à-dire à laisser planer un vide, un vide d'intention, un vide d'investissement, vous comprenez ou non? Ton fils, il a des problèmes à l'école. D'accord, d'accord. Bon, c'est à cause de l'école, disons, à 50%. Mais ta part à toi, fais-la. Ah non, tu te rends compte, l'école. Bon, t'as un problème avec ta femme. Bon, mais regarde ce que tu peux faire. Ah, mais tu la connais pas, elles sont toutes pareilles. T'as un problème avec ton mari. Oui, mais de toute façon, il est resté dans les jupons de sa mère. D'accord, mais il y a au moins 50% pour toi. Il n'y a rien. Donc, ta manière à toi de repousser le problème chez l'autre, ça fait qu'en fin de compte, ta part à toi, tu la fais pas. Mais si tu fais pas ta part à toi, tu dois te poser une question. Pourquoi le bon Dieu t'a posé la question à toi? Pourquoi le bon Dieu, il t'a envoyé cette femme-là si tu n'as rien à voir avec ça? Pourquoi le bon Dieu, il t'a envoyé ce mari si tu n'as rien à voir avec ça? Pourquoi il t'a envoyé cet enfant si tu n'as rien à voir avec ça? C'est bizarre. Et le bon Dieu, il ne se trompe jamais. Alors réfléchis. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Il dit, ça, c'est ça. C'est ça le problème. Numéro 1, tu acceptes le doute. Numéro 2, comment tu vas gérer le doute? Eh bien, la base de la gestion du doute, c'est quoi? C'est la connaissance. On n'a pas le droit d'être ignorant. C'est assourd. Un homme doit étudier la Torah tous les jours. Une femme doit étudier. Aujourd'hui, une femme est obligée d'étudier. Il y a plein de livres, il y a plein de cours, il y a tout ce qu'il faut. Maintenant, étudier, ce n'est pas seulement ouvrir des livres. Étudier, ça veut dire aussi réfléchir. Est-ce que je peux être une baha comme ça, attendre les soldes de Kenzo? Ou je dois réfléchir? Je suis une maman, je suis une femme, où j'en suis, je suis une grand-maman. On a des choses à réfléchir. Il dit maintenant, celui qui ne se donne pas les moyens de réfléchir, Aoudou Kolo, il crée un vide. Dans ce vide, il rentre le Yetzerara. Vous avez compris comment ça fonctionne? Donc toi, maintenant, tu as une mitzvah de réfléchir. Or, chaque situation de la vie, elle demande une réflexion. Comment est-ce qu'on peut faire? Comment je peux lui dire? Comment je peux aborder cette chose-là avec cet enfant? Comment je peux faire avec mon mari? Comment je peux faire avec ma femme? Comment je peux faire? Je vais essayer de comprendre. Comment je vais faire avec la communauté? Comment je vais faire avec ce client? Comment je vais trouver une façon honnête de le faire? Pourquoi je ne suis pas obligé de le faire de manière d'une magouille? Pourquoi? Parce que la question, elle se pose à toi. Donc, quand tu vas étudier la question, c'est-à-dire que tu te mets dans une position où tu veux éclairer ton doute, pas le contraire, que tu veux encourager ton doute, parce que si tu encourages ton doute, tu retombes dans le Yetzerara. Dis-toi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux éclairer ton doute. Parce qu'il y a une mitzvah, ce qu'on appelle les varer et adavar, d'éclaircir, de résoudre le problème. Oui? Ça ne va pas avec ton mari, tu dis, on va s'asseoir, on va parler. Ah non, c'est trop facile. Non, bon, si tu veux crier, vomis, crie, mais après on va parler. On va poser les choses. Ah, mais de toute façon, ça ne sert à rien. Écoute, maintenant, on est là tous les deux. On va divorcer, mais en attendant, on travaille. Non, c'est trop. Je te connais. Mais de toute façon, je comprends pas ce que tu veux. De toute façon, on va divorcer. Mais viens, en attendant, on travaille. Peut-être que tu, après le travail, n'auras plus besoin de divorcer. C'est comme un enfant, il dit, de toute façon, j'arrivais pas. Moi, j'ai eu des enfants qui sont venus. Il restait 3 mois avant le bac. Il m'a dit, monsieur Benchetrit, mes parents, ils veulent que je travaille, mais de toute façon, j'ai tout raté, ça sert à rien. J'ai dit, écoute, je vais te raconter une histoire. Quand j'étais en seconde, il y avait des jeunes qui venaient du Cambodge. Ils parlaient pas un mot de français. Ils bossaient comme des malades jour et nuit. Ils rattrapaient 4 ans d'école en 1 an. Parce qu'ils sont partis du Cambodge. Ils vont se battre comme des fous, ils vont rattraper. Je dis, alors toi, il te reste 3 mois. En 3 mois, tu vas rattraper l'année. Il m'a dit, mais comment je vais faire? Tu vas faire. On va trouver des profs, tu vas te mettre jour et nuit, on va faire du bachotage, tu vas faire 60 exercices par leçon, tu vas le vomir. Le mec, il a eu le bac mention très bien. Il a vomi, il a éclaté le bac. Pourquoi? Parce qu'il s'est mis. Donc c'est quand tu t'y mets, il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de limite. Mais si toi-même tu dis, mais ça fait déjà 6 mois, et bien dans 1 mois ça fera 7 mois, et dans 1 mois ça fera 8 mois. Ah, c'est ça ce qu'ils font les gens. Ah, de toute façon, ça fait 2 ans qu'on est ensemble, ça ne marchera pas. Ah. Un autre comme ça, il est venu. Il m'a dit, Ramad Chetri, je n'aime pas ma femme. 6 ans qu'il est marié. Il m'a dit, je ne la supporte pas. Je dis, alors divorce. Il me dit, je ne peux pas, il y a les enfants. Je dis, alors construis ton couple. Il m'a dit, non, parce que je ne l'aime pas. Je suis un mec compliqué, toi. Il m'a dit, vous comprenez, moi j'étais avec une Goya et je l'adorais. Mes parents m'ont fait la pression pour que je quitte la Goya. J'ai quitté la Goya. Comme j'étais un peu en dépression quand j'ai quitté la Goya, ils m'ont trouvé cette juive, ils me l'ont foutu. Maintenant moi je l'épousais, mais même sous la roupa déjà j'étais mal. Il y a un enfant qui est né, il y a un deuxième enfant qui est né, il y a un troisième enfant qui est né, et maintenant je l'aime pas. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dis, vraiment, vraiment, tu n'aimes pas? Il me dit, je l'aime pas, je peux pas. Je la vomis, je la vois. Je dis, il faut divorcer maintenant. Ah, il m'a dit, je peux pas divorcer. Je dis, alors tu peux pas divorcer? Alors viens, on travaille, apprends à l'aimer. Apprends à l'aimer, voilà, t'es tombé. Le bateau, il a coulé. Il reste sur un radeau, 2 personnes. Toi et ton pire ennemi. Mince, ils sont tous crevés. 1396 personnes. Il y a un qui est resté vivant, celui que j'aime pas. Je dis, alors comment tu vas faire? Vous êtes les deux sur le même radeau. Ou tu le tues, ou tu te tues, ou tu apprends à vivre avec lui. C'est un radeau. Alors c'est ça que je comprends pas. Pourquoi tu préfères faire durer ta douleur plutôt que d'assumer ta réalité? Vous comprenez ou non? Moi, les gens, ils m'appellent. Ah, mais de toute façon, vous ne la connaissez pas. Vous ne savez pas comment il est. Puis ça ne sert à rien. Je dis, ah, pourquoi tu m'appelles? Si tu veux me raconter un enterrement en mer, moi, je vais aller au mien, si Dieu veut. Pourquoi je vais aller au tien? Tu m'appelles pour me dire l'enterrement? Dis-moi, on va s'en sortir. On va se donner des moyens. On va réussir. Comment je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Mais tu m'appelles pour me dire que c'est mort. Alors meurs. Parce que c'est mort. Tu dis, non, je voudrais bien que ça s'arrange. Alors bats-toi. C'est ça le problème. Parce que quand tu te bats, écoute bien quand je te dis, quand tu te bats, même quand tu as perdu, tu as gagné. Parce que tu avais ce que tu avais à faire. Tu as fait ce que tu avais à faire. Mais quand tu te bats pas, même quand tu as gagné, tu as perdu. Parce que tu n'as pas grandi. Donc, la culture du doute, ouais, la peur, le malaise, le manque d'investissement, ça profite à personne. C'est rien que ton Satan qui entretient cette dimension-là. Il dit, il est rentré chez toi parce qu'il y avait un vide. Pourquoi il s'est perpétué? Parce que tu as perpétué le vide. C'est-à-dire que les gens, en viennent compte, le plus grand danger de l'homme, c'est le Yetzer Hara. Mais le plus grand complice du Yetzer Hara, c'est l'homme lui-même. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant? Comprenez ou non? Combien de fois les gens disent, ah, Rav, qu'est-ce que je vais faire? Il se moque de moi. Je dis, bon, lui, il se moque de toi. Mais toi, tu te moques de toi? Il dit, oui, je suis sûr que tu veux maintenant. 2 embrouilleurs qui se sont rencontrés. Toi, tu te moques de toi, lui, il se moque de toi. Mais non, toi, tu te moques d'Hachem, Hachem, il se moque de toi. Toi, tu te moques de la vie, elle se moque de toi. C'est que les gens ne comprennent pas. La vie, elle s'adresse à un adulte. Si tu te conduis en gamin, la vie, elle se conduit en gamin. C'est comme c'est la vie. Mais si tu fais le contraire, c'est-à-dire que toi, tu as compris maintenant. Tu as dit, le doute existe, d'accord. Le doute, il vient de quoi? D'un manque de clarté, je vais éclaircir. Mais si je fais durer le doute, c'est que je m'intéresse au doute. Donc en vérité, le problème, il est de quoi? J'ai une réalité qui est devant moi. Numéro 1, je dois la poser. Numéro 2, quand cette réalité, elle est posée, je dis, elle s'adresse à moi. Si elle s'adresse à moi, qu'est-ce qu'elle veut de moi? Et moi, maintenant, je dois déjà éclaircir ce doute. Après que je l'éclaircis, je vais poser qu'est-ce que j'ai tiré de là. De là, il va se poser une autre question. Et je vais encore grandir et grandir et grandir. C'est-à-dire que la seule manière d'enlever les doutes, c'est d'allumer la lumière. Il faut allumer la lumière. Si toi, tu n'allumes pas la lumière, si toi, tu n'éclaircis pas les choses, si toi, tu ne poses pas les problèmes pour trouver des solutions, ça ne s'arrangera jamais. Et le vrai problème, c'est ça. C'est que les gens, ils cultivent, ils font durer le doute. Parce que dans le doute, personne n'est obligé d'assumer. Tu accuses l'autre. Ou tu t'accuses toi. Ça marche. Mais là, il faut avancer. Maintenant, quand toi, tu gères ton doute, ça veut dire que tu as accepté le problème. Il y a un problème. Tu as accepté que la réalité, elle est adaptée à toi. Parce que le bon Dieu, il ne s'est pas trompé. Et après, tu dis, qu'est-ce que la réalité attend de moi? Alors, au niveau travail, ça s'appelle efficacité. Au niveau de son couple, ça s'appelle la maturité. Au niveau de l'enfance, ça s'appelle son obligation parentale. Ouais. Au niveau de tes amis, ça s'appelle ta responsabilité humaine. Au niveau de ton pays, ça s'appelle la citoyenneté. Ça veut dire que... qu'est-ce qu'elle veut de toi, la réalité? Qu'est-ce qu'elle attend de toi, la réalité? Maintenant, s'il y a quelqu'un de présent qui répond présent, il n'y a pas de problème. Ça s'appelle la clarté. Mais s'il y a quelqu'un qui répond absent à la réalité, ouais, comment il va justifier cette absence? Deux solutions. Soit il va accuser l'autre, ouais, soit il va accuser la situation. Ah, de toute façon, je suis débordé, je suis dépassé, c'est les choses que j'arrive pas, c'est trop difficile, je sais pas qu'est-ce que le monde y veut de moi, qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi. Mais enfin, il faut grandir. Quand tu es petit, et quand tu es grand, il faut décider. Alors qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai dit que la faiblesse, que la force des enfants, c'est la faiblesse des parents. D'accord? Rappelez l'eau et le sable. Vous mettez de l'eau dans du sable, où elle va l'eau? Elle part dans le sable. Vous mettez de l'eau dans un verre, où elle va l'eau? Elle reste dans le verre. Pourtant, le sable, c'est du... le verre, c'est du sable. Oui? Alors toi, maintenant, si toi, tu es du sable, l'eau, elle traverse. Si toi, tu es du verre, l'eau, elle reste à l'intérieur. Maintenant, l'eau, c'est l'autre. L'autre, c'est l'enfant. L'autre, c'est le mari. L'autre, c'est la femme. L'autre, c'est la religion. Si toi, tu es en sable, la religion, elle s'en va. Tu sais, au début, bon... quand on était là-bas, c'était bien, j'étais encadré. Puis finalement, j'ai un peu baissé dans la pratique. Et t'as pas compris. Si t'es du verre, si t'as des valeurs,
ouais,
t'as des valeurs. Pas comme ça, les gens disent, ah, vous savez, j'ai parlé à quelqu'un, mais vraiment, il m'a mis des doutes au niveau intellectuel. Tu lui qui vient me voir, j'ai envie de savoir s'il va me mettre des doutes à moi. Il dit, ah non, il viendra pas chez vous. Je sais pourquoi il vient pas. J'ai envie de voir, moi. Peut-être j'ai pas la émouna. Je vais parler avec un mec, genre un intello ou la très loin. Je l'ai fait déjà, mais c'est pas grave, ça m'intéresse pas, ça me dérange pas de recommencer. Viens, il vient pas chez moi, c'est bizarre. Donc il y a deux problèmes. Moi je me demande pourquoi il vient pas chez moi, d'accord. Deuxième problème, pourquoi il va chez toi? Il sait que ça va marcher avec toi.
Parce que celui-là, il a pas l'impression d'avoir des doutes en général.
Qui?
L'intellectuel.
Mais il doit se demander pourquoi il vient chez lui.
Enfin, quand il y a des combats comme ça de.
Je te dis, la mouche, elle va pas se coller sur le bloc de granit. Jamais. Elle sait qu'il n'y a rien à manger là-bas. Alors pourquoi elle va là? Parce que c'est de la viande. Elle doit se demander. Qu'est-ce qu'elle vient faire la mouche ici? Comment une fois il m'a dit, oh, vous savez, Rav, j'ai entendu cet intellectuel. Je dis, mais dis-lui à cet intellectuel qui vient avec moi. Je vais l'emmener chez un rocher Shiva. Qui vient? Jamais il va là-bas. Il va se mettre devant un parterre d'ignorants, il va faire une grande démonstration sur la nullité de la Torah. Mais pourquoi tu parles à des nuls? Viens parler avec des chachamim. Jamais. Il va dire, non, c'est des orthodoxes, obscurantistes, ils comprennent rien. Viens parler avec eux. Viens parler, n'aie pas peur. Viens parler avec des idiots, parce que c'est des obstus. Mais toi, Ben Arad, c'était un prix Nobel de philosophie. Hein? Viens parler avec eux. Non, ils viennent pas. Pourquoi? Bref. Non, je vous dis, ils ont peur. Ils ont peur, se disant, nous on se mélange pas. Viens t'asseoir, quel est ton problème? Ils ont peur, parce qu'ils savent que ça tient pas la route. Mais réfléchis un petit peu dans ta tête. Rabbi Akiva Eiger, quand il a écrit Tzairi Yun Gadol dans la Gemara, il a refait 600 fois le chasse. Qu'est-ce que c'est le chasse? On est en retard. C'est ce que c'est le chasse, le Talmud, c'est ce que c'est. Il y a 2400 pages. J'ai déjà étudié le Talmud, c'est compliqué. Ouais. 2400 pages. Maintenant, quand Rabbi Akiva Eiger, il pose une question sur la Gemara et qu'il n'a pas trouvé la réponse, il marque Tsarich Iyun Gadol. Tzadik Ain Gimel. Tsarich Iyun Gadol. Alors, il dit qu'à chaque fois qu'il écrit Tsarich Iyun Gadol, ça veut dire qu'il a refait 600 fois le Talmud tout entier pour trouver la réponse, il n'a pas trouvé la réponse. 600 fois pour une question. Maintenant, peut-être qu'il y a 200 questions de Rabbi Akiva Eiger. Dis-moi, combien de fois il a fait le Talmud? Alors tu vois qu'un mec qui est capable de passer au scanner la Sorbonne en 10 minutes, tu crois que lui, il s'est trompé. Mais toi, Blaine Ara, pour toi, que tu as un DUT, au-delà de technique, au-delà de tchéroua. Toi, Blenara, tu as compris la vérité. Mais lui, c'est un brel. T'es sûr? T'es sûr qu'il est bête? Comprenez ou non? C'est bizarre. Comment les gens, ils peuvent tomber dans un piège pareil? Moi, quand j'étais jeune, j'appelais ça la modestie intellectuelle. Tu vois que le type, il tient la route. Fais une mitzvah. Ferme-la. Non. Ouais, je suis pas d'accord. Mais t'es pas d'accord avec quoi? Mais quoi? Tu m'as pas d'accord de te confronter. Va lui parler. C'est bizarre, non? Regardez la science. Elle parle de la physique. Elle parle de la chimie. Elle parle. Pourquoi elle parle pas de la Torah? Pourquoi elle étudie pas la Torah? Pourquoi à la fac, on étudie pas la Torah? Vous n'êtes pas demandé? Tu vas me dire, non, mais c'est une science ancienne. Mais on étudie la Mésopotamie. On étudie les hiéroglyphes. On étudie la culture des Incas. Ouais. Pourtant, il y avait un cas. Imagine deux cas. Qu'est-ce que c'est... Ouais. Pourquoi ils n'étudient pas la Torah? Pourquoi il n'y a pas un département à la Sorbonne qui étudie la Torah? Tu écoutes, ça n'a aucun intérêt. Écoute, bon, il s'agit de la Bible. Écoute-moi bien. Le Rambam, il a calculé la distance entre toutes les planètes du système solaire et la Terre. Ouais. À partir des psukim. D'accord? Pythagore, ça veut dire pitouille à guerre. Parce que Pythagore, c'est un converti au judaïsme qui était grec et qui a appris la géométrie de la Kabbalah de Yeheskel. Ça, c'est Pythagore. D'accord? La Gemara, elle te donne la longueur exacte du. Combien de temps elle met la Lune pour faire un tour complet? Ouais, 29 jours et 8 heures et très loin. Ouais? Au centième de seconde. La Gemara, dans Sanhedrin, elle est écrite, tu la trouves, ça fait 2500 ans. Alors que les scientifiques, ils ont réussi à trouver ça seulement quand ils ont été sur la Lune et que Armstrong, il a déposé un miroir. En 1950 et quelques. 1950 et quelques. Alors qu'en moins 1000 et quelques, c'était déjà écrit dans le Gemara. Ça veut dire que déjà, il y a 3500 ans, c'était déjà écrit dans la Torah. Mais qu'est-ce que tu crois, toi? Mais qu'est-ce que tu crois? Maintenant, il y a des millions d'exemples. Je vous ai déjà dit, le Ramban, il dit que la semence de l'homme, elle est faite de la même nature que le sang. Et que la semence, elle contient des éléments microscopiques. Et que chaque élément, il contient toutes les caractéristiques de tous les membres. Comment ça s'appelle en français? L'ADN. Mais le Ramban, il a vécu en 1214. Tu vas me dire qu'il était en avance sur son temps. Non, il n'était pas en avance sur son temps. Il était en dehors du temps. Les Chachamim, ils ne sont pas dans le temps ou avant le temps. Ils sont en dehors du temps. Vous ne voyez pas? La Torah, elle existait avant que le monde existe. Maintenant, quand celui qui étudie la Torah, il est dans une dimension qui n'est pas liée à la matière, qui n'est pas liée à l'histoire, qui n'est pas liée à la hiérarchie, qui n'est pas liée au temps. Maintenant, puisque la Torah existait avant que le temps existe, donc la Torah, elle ne peut pas être dépassée par le temps. Donc ça veut dire quoi, la Torah, elle est dépassée? C'est-à-dire que la Torah, elle contient le présent, elle contient le passé, elle contient l'avenir. Elle contient la chimie, elle contient la physique, elle contient l'astronomie, elle contient l'astrologie, elle contient tout. Seulement, il faut la lire. C'est ça le problème. Il faut la lire. Il faut savoir la lire. Celui qui ne sait pas la lire, il ne comprend rien. Maintenant, la Torah, elle a dit, j'ai créé l'Yetzer Hara et j'ai créé la Torah au médicament. Oui? Alors, de vous à moi. Vous savez que c'est écrit que l'étude de la Torah, ça compte 613 mitzvot. Vous savez ça? Talmud Torah, Kenegel, Kulam. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu étudies un mot de Torah, c'est comme si tu fais 613 mitzvot. Un mot, 613 mitzvot. Si, tu as déjà mis les téfilines une fois? Quand tu mets 613 fois les téfilines, c'est comme si tu les as mis pendant 2 ans. Ouais? 613 fois, tu as mis les téfilines. Maintenant, quand tu étudies un mot de Torah, c'est comme ça fait 2 ans de téfilines. Oui? Tu dis, ouais, c'est super, Hazak. Donc, si je fais 2000 mots de Torah, 2000 fois 613, ça va? Maintenant, je te pose juste une question. Chaque mitzvah, elle a un yetzer hara. Donc, la Torah, elle a combien de yetzer hara? 613. Tu veux la preuve? 99% des juifs, ils n'étudient pas la Torah. Des goïms, n'en parlons pas. Hein? C'est logique, non? C'est normal. Il y a 613 yetzer hara par mot. Par mot. Quand tu prends une Gemara, il y a à peu près 73 millions de yetzer hara qui t'empêchent de t'approcher de la Gemara. Il m'a dit, mais c'est pas pour moi, c'est dépassé, c'est de l'araméen, c'est de l'arabe, qu'est-ce que je vais comprendre? Et puis ça ne veut rien dire, et c'est des choses qui ne s'appliquent plus aujourd'hui. Ça veut dire quoi, ça s'applique pas aujourd'hui? Je t'ai dit que c'est pas temporel. C'est intemporel. Donc, étant donné qu'Hachem il a donné la blessure du Yetzerara, il a donné la Torah en médicament. Maintenant, c'est normal que le Yetzerara il nous laisse pas étudier la Torah, puisqu'il sait très bien, Yetzerara, que si on étudie la Torah, lui il est mort. Parce qu'il n'y a pas mieux que la lumière pour enlever l'obscurité. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a peur dans le noir et on est rassuré à la lumière? Imagine, vous êtes dans une caverne. Vous entendez. Tu vas mourir. Si tu sens la laine là, du chien, tu vas mourir dans le noir. Si tu es réveillé, tu vois le chien. Bon, tu as peur, mais tu vas mettre un truc autour de ton bras, tu vas lui casser le nez, tu vas trouver une solution. Mais dans le noir, tu sais pas d'où il va venir. Pourquoi on a plus peur dans le noir que dans l'obscurité, que dans la lumière? Alors, comment s'appelle la lumière? Oraita. La Torah, c'est Oraita. Allume la lumière. Allume la lumière. Donc, en vérité, il y a une espèce d'illusion d'optique de croire que de maintenir l'ignorance, ça augmente la liberté. Alors qu'en vérité, c'est le contraire. Plus tu maintiens l'ignorance, plus tu augmentes l'esclavage. La preuve, c'est qu'un dictateur, dès qu'il fait la révolution, la première chose qu'il fait, il tue les professeurs, il ferme les universités, il ferme les écoles. Parce qu'il sait très bien, le dictateur, que la culture libère. Mais d'où ça vient que la culture libère? Vous n'avez jamais demandé? Parce que la Torah, elle libère. Maintenant, quand vous allumez la lumière, ça prend combien de temps pour comprendre ce qui se passe? Une fraction de seconde. C'est ça le secret. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un il accepte d'étudier la Torah, il y a deux choses. Il y a le fait qu'il comprend et il y a le fait qu'il veut comprendre. Maintenant, le fait de vouloir comprendre, c'est un niveau de maturité qui fait que tu comprends. Je ne sais pas si vous me suivez. Tu crois que ton fils, il comprend rien? Non, ton fils, il est fatigué, c'est un flemmard. Le jour où il va se prendre en main, ce matin, j'étais à Lyon. Il y a une femme, elle me dit, voilà, mon fils, j'ai un problème, écoutez, il veut absolument changer d'école et tout ça, mais il veut travailler, il a pris ses livres lui-même et tout ça. Elle m'a dit, mais j'arrive pas, vous savez, il est un peu lent et tout ça. Je dis, écoutez madame, vous avez une chance extraordinaire, c'est que votre fils, il veut. C'est plus facile d'orienter un enfant qui veut travailler que de réveiller un enfant qui veut glander. Parce que quand il a attrapé la maladie de la Allah, qui devient une excroissance de PlayStation, il y a des enfants comme ça. Toute la nuit, ils font du poker sur Internet et toute la journée, ils dorment. Non, c'est vrai, c'est une réalité. Toute la journée, il dort. Il a 16 ans, 17 ans, 18 ans, c'est une nouvelle maladie à Paris. Je ne sais pas s'il y a ici aussi le poker. Il joue au poker en vrai, il joue au poker sur Internet. Toute la nuit, il joue au poker. D'ailleurs, on n'arrive plus à les réveiller le matin parce que c'est poker top. D'accord. Toute la nuit, il joue et le jour, il dort. Le pire, c'est que c'est comme dans les jeux. Vous savez comment ça se passe au casino? Toujours la première fois, tu gagnes. Les tsars, ils te font gagner. Comme ça, tu vas revenir. Donc, c'est pareil maintenant. Il prend des gosses de comme ça, 16-18 ans. Il leur fait gagner 500, 600 euros. Et après, il les fait perdre. Mais le mec, il espère toujours qu'il va gagner. Ils vont plus à l'école. Il va plus à l'école. Il apprend à jouer au poker. Ils ont fait des clubs de poker spécialement pour les jeunes juifs à Paris. C'est la nouvelle maladie. Il y a un gars ici à Milan? Pas encore? Priez. Ah non, je plaisante pas. Ah non. En plus que les gens qui vont dans les clubs de poker, c'est des gens qui sont des héros des enfants. Ils les aiment. Genre des chanteurs, ou la Bruelle, ou la Détrelouette. Donc pour eux, c'est un modèle. Tu dis, et lui, Patrick, il joue, alors moi aussi, je vais jouer. Mais les mecs, ils perdent leur vie. Ils arrêtent les études, ils arrêtent le travail. Je te dis, il dit, pourquoi je vais travailler? J'ai pris 2000 euros, pourquoi je travaille? Comment tu vas faire un ingénieur avec un mec qui a pris 2000 euros au poker? Comment il va se taper un bouquin de maths comme ça alors que le mec il s'est compté jusqu'à 52? C'est ça le problème. Ça veut dire que le Satan, lui, il crée un espace. Cet espace, il rentre à l'intérieur. Toi, tu sais que quand tu mets la conscience, quand tu mets la connaissance et quand tu mets la volonté chez l'enfant, l'enfant, il est sauvé. Il est sauvé! Par contre, le contraire, si tu mets pas la conscience, parce que tu n'as pas le temps, parce que tu n'as pas la tête, tu mets pas la connaissance et tu mets pas la volonté, l'enfant, il est foutu. Mais c'est pareil pour ton couple. Dans ton couple, tu dois mettre la connaissance. C'est quoi la connaissance? C'est quoi la connaissance dans le couple? Moi, combien de fois j'ai reçu des couples en Shalom Bayit? Je t'écoutais, j'ai un problème. Il n'y a pas de culture de couple. Vous me parlez de lui, vous me parlez de elle, vous me parlez de lui, vous me parlez d'elle. Vous ne parlez jamais de nous. Vous ne parlez pas de vous. Qu'est-ce que vous avez fait, vous? Vous devez dire, nous avons eu ce problème, nous avons essayé de trouver cette solution, nous avons travaillé sur ça, nous avons évolué sur ça. Nous, mais j'entends pas nous, j'entends moi, toi, lui, lui, elle, elle, lui, elle. Donc il n'y a pas de culture de couple. Comme il n'y a pas de culture de couple, il n'y a pas de conscience de couple, il n'y a pas de volonté de couple, il n'y a pas de couple. S'il n'y a pas de couple, c'est pas la peine de divorcer parce que vous n'êtes pas mariés. Donc d'abord on se marie, après on divorce. Les gens pendant 3, 4, 5 ans, ils font comme ça, arrête. Après ils disent, oh, il y a une distance qui s'est créée entre nous. Eh bien Yahmar, ça fait 3 ans que tu la fous dehors. C'est quoi cette logique? Ça veut dire quoi? Il faut la maturité du couple. Comme il faut la maturité dans l'éducation. Comme il faut la maturité dans l'étude de la Torah. Tu dis, mais j'ai essayé d'étudier, j'arrive pas. Eh bien une fois, deux fois, fais Shalom Bayit avec ta Gemara. Fais Shalom Bayit avec ta Halakha. Fais Shalom Bayit avec ton Mishnah Brura. Vas-y, fais Shalom Bayit avec. Tu t'arranges, tu étudies, tu essaies d'apprendre, tu apprends des mots, tu raisonnes, tu réfléchis, hop, tu es bien. Mais si tu dis, tu sais, j'ai pas essayé, ça n'a pas marché. J'ai pas passé l'examen, je l'ai raté. C'est quoi ta question? Il dit, cette logique-là, Rabota, il est pas chaude. Ça veut dire que le doute, il a été créé par l'absence de l'homme. Donc il va s'enlever par la présence de l'homme. Maintenant, si toi, tu as un lien intime avec Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de doute. C'était pas le doute. Si toi, tu as une distance avec Akadosh Baruch Hu, eh ben, qu'est-ce qui se passe quand on s'éloigne de la lumière? Il fait de plus en plus sombre. C'est pour ça que les gens disent, vous savez, je crois, je comprends plus rien. Je comprends plus rien. Mais tu comprends plus rien, pourquoi? Jamais vous étonnez. Jamais vous vous posez la question. Il y a un truc qui vous travaille pendant, ça fait 3 mois que vous avez la tête qui mélange. Vous posez la question au Rav, le Rav il tape dans le mille. Tac! Tu dis, moi, c'est bizarre comment le mec il a trouvé en 5 minutes que toi t'as cherché en 3 mois. Je dis parce qu'il est intelligent. Non, aucun rapport. D'où il est intelligent, pas plus que toi. Je vous explique. Même s'il a un cerveau, même s'il a de la culture, mais personne ne peut être aussi fort dans un domaine que le domaine dans lequel toi tu es en train de travailler maintenant. Ça va? Alors comment ça se fait qu'il est tombé pile? Parce que lui, ça ne le dérange pas de trouver la réponse. Mais toi, tu l'as fui la réponse. Il n'y a pas plus loin que ce qu'on fuit. Même si tu es à 1 mètre, quand tu le fuis, c'est loin. Parce que tu n'as pas envie. Tu ne veux pas maintenant. Tu ne veux pas la réponse. Alors tu ne vas pas la trouver. Alors tu dis, oh, je comprends rien, puis c'est compliqué. C'est pas compliqué. C'est compliqué parce que tu es loin. Mais loin et proche, c'est pas géographique, c'est dans la tête. Par contre, si toi, tu vas réussir à te consacrer, ouais, tu as un problème avec ce malade, tu dis, maintenant, je vais m'occuper de lui maintenant. Tu vas trouver la solution maintenant. Tu dis, j'ai un problème avec moi-même, je vais m'en occuper maintenant. Voilà, je ne vais pas sortir d'ici tant que je n'ai pas réglé le problème. Je vais régler le problème. Mais si tu dis, c'est pas évident, puis j'ai pas que ça, puis j'ai plein de soucis, j'ai plein de choses à faire, ben tu fais rien en fin de compte. Donc on a dit, c'est quoi? On a dit que Kadosh Baruch Hu, il a dit, l'Agmara, elle a dit que la DA, elle vient du fait qu'un homme, il est capable d'avoir une force d'affirmation, comme s'il avait le Beth Amikdash de son vivant. Vous vous rappelez ou non? L'Agmara, elle a dit que de la DA, elle est grande, la DA, que c'est comme si un homme, il avait construit le Beth Amikdash de son vivant. On l'a dit, mais est-ce que quelqu'un, il peut arriver à un niveau d'affirmation aussi fort que s'il avait le Beth Amikdash? Merci beaucoup. En fait, la logique, elle est simple. Le Beth Amikdash, c'est un endroit de conscience d'Hachem. Maintenant, un jour, tu vas comprendre que toute ta vie, c'est un Beth Amikdash. Toute ta vie, c'est un Beth Amikdash. C'est ta femme, c'est un Beth Amikdash. Ton mari, c'est un Beth Amikdash. Ta maison, c'est un Beth Amikdash. Ton mikvé, c'est un Beth Amikdash. Ta yeshiva, ta synagogue. Ton livre de prière, c'est un Beth Amikdash. Maintenant, si toi, tu te mets honnêtement en face de ton livre de prière et tu dis, maintenant, je vais prier, tu es Beth Amikdash. Maintenant, tu te mets en face de ta femme. Tu dis, bon, on va arrêter de s'embrouiller, de s'engueuler pour rien, de faire son plan, de ne pas se comprendre. On va se parler clairement. Tu es devant la Shekhina. Vous comprenez cette logique-là? Ça veut dire qu'en vérité, quand c'est marqué maintenant la Dea, Gedola, Dea, Shenitna, Ben Shte, Otiot. Elle est grande, la Dea qui a été placée entre deux. Mais c'est quoi? Quel Deot Hachem? Quel Aleph Lamed? C'est un nom d'Hachem, ouais. Alors vous savez que Elohim, c'est la rigueur. Mais Aleph Lamed, c'est quoi? C'est Rahamim, ouais. Et Hachem, Yudkevavke, c'est Rahamim. Donc, quel déhot Hachem? Comment ça se fait qu'Hachem, il a mis la Dea entre deux noms de Rahamim? C'est bizarre, non? Ça veut dire que c'est très simple. En vérité, c'est quoi le Rahamim? Le Rahamim, la miséricorde, c'est quoi? C'est le crédit que tu donnes aux choses. En vérité, pourquoi on ne réussit pas? Parce qu'on ne donne pas du crédit aux choses. C'est ça les kavzuchut, juger positivement. C'est ça de se mettre dans un esprit positif. Maintenant, quand toi, tu te mets dans un esprit négatif, soi-disant t'es rigoureux, soi-disant t'es dur, en vérité, parce que t'as peur. Vous savez que le chien, il attaque parce qu'il a peur. L'homme, il crie parce qu'il a peur. Mais quand quelqu'un, il est bechesed, chesed, c'est pas la gentillesse. Chesed, c'est une sérénité. Tu dis, j'ai Hachem avec moi à droite, j'ai Hachem avec moi à gauche. Qu'est-ce qui va m'arriver? Comme sous la choupa. Tu sais, tu rentres sous la choupa, t'as ton père qui te tient, et là, t'as ton beau-père. Et elle a sa belle-mère. Et pourquoi? Les gens qui t'aiment, ils viennent avec toi. Ça veut dire, n'aie pas peur de rentrer dans la guerre du mariage. On est avec toi. Il est tienne pour pas qu'il s'enfuit. Ouais. La belle-mère aussi, elle te tient. Ouais. Mais c'est quoi cette logique? Ça veut dire, n'aie pas peur. Maintenant, si quelqu'un, il est chacham, ouais. Et c'est comme ça qu'on doit éduquer nos enfants. On doit éduquer nos enfants pour qu'ils soient forts. Pour qu'après, si Dieu veut, quand on les emmène à la choupa, on a dit Baruch Hashem, j'ai fait ce que j'avais à faire. Il a étudié la Torah, il a fait du chol, il a construit sa tête, il a bien mangé, on l'a nourri, on l'a soigné, on l'a rendu indépendant, intelligent. Et même maintenant, Baruch Hashem, de Baras, tu te débrouilles, tu t'assumes, tu grandis, tu vis. Vous comprenez ou non? Mais si nous, on n'arrive pas à ce degré de sérénité, c'est parce qu'au fond, on sait qu'on n'a pas fait ce qu'on avait à faire. Au contraire, on est Baruch Hashem. On a bien travaillé, on a bien donné, on a bien fait. Ouais, on leur a fait ce qu'il fallait. Et eux, maintenant, ils vont se débrouiller. Il dit maintenant, imagine-toi, de la même manière que toi, le degré de sérénité que tu peux avoir par rapport à tes enfants, quand tu as fait ce qu'ils avaient à faire, ça va? Oui? Maintenant, le degré de sérénité que tu peux avoir par rapport à toi, quand toi, tu sais que tu as fait ce que tu avais à faire avec toi, c'est de la même manière que ton enfant, il est rassuré par toi. Et toi, t'es rassuré pour ton enfant. Mais suivi ou non? Maintenant, pourquoi est-ce que quelqu'un, il pourrait pas être rassuré pour l'enfant qui est en lui? Mais suivi. Celui qui s'angoisse en toi, celui qui a peur, celui qui a des doutes, ben c'est pas pire. Comme toi, tu es tranquille pour ton fils parce que tu as fait ce qu'il fallait, tu dois être tranquille pour toi parce que tu as fait ce qu'il fallait. Alors maintenant, quand toi, tu es tranquille pour toi et que toi, tu es tranquille pour ton fils, tu peux t'imaginer que Hachem, il est tranquille pour toi. Et cette logique là ou non? Parce qu'il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Donc en vérité, ta sérénité, elle vient de quoi? Elle vient du fait que tu vois quel Hachem devant toi et Yud-Kivav-Ké derrière toi. Tu sais que Yud-Kivav-Ké il est avec toi et tu sais que quel il est avec toi. Alors qu'est-ce qui va t'arriver maintenant? Mais si à la place duquel tu as mis le Satan et à la place du Yud-Kivav-Ké tu as mis le Yetzerara, après tu t'étonnes que tu as peur, que tu t'angoisses, que tu es fragile, c'est normal. Donc, quel déhot Hachem? C'est que le degré de maturité que toi tu mets à l'intérieur de ta vie, elle dépend de combien tu mets Hachem dans ta vie, devant toi et derrière toi. Maintenant, si toi tu sais qu'Hachem il est derrière toi, il te protège, et que tu mets Hachem devant toi, tu mets Aleph Lamed devant toi toute ta vie, Shiviti Hachem Kenegdi Tamid, tu n'as pas à avoir peur. Et c'est ça qui permet à quelqu'un véritablement de gérer ses doutes. Est-ce que vous avez des questions?
Oui, j'ai deux questions.
Allez.
Alors, premièrement, le pronom, est-ce que c'est équivalent à la première, c'est le Yetzirah, le pronom,
première? Oui.
Deuxième question, comment on peut distinguer le pronom? Vous avez dit qu'avant chaque événement, il y a un pronom.
Oui.
Donc, comment on peut le distinguer? Si c'est vraiment un pronom ou si c'est